Dans cet épisode de Geekbécois, le podcast,
je peux être poursuivi pour avoir copié leur design parce que je vais confondre un consommateur qui s'attend à voir le produit X puis en fait il y a Y.
Je vais vous parler des jeux à venir en septembre.
Si vous êtes trop impatient pour les nouveautés, les grosses nouveautés qui vont sortir plus au mois d'octobre, ouais, là, à partir du mois d'octobre, je vous dirais que vous avez du choix en masse pour septembre. Là.
Pour la simple et bonne raison, je peux avoir des jeux de qualité, tu sais, puis on parle de qualité genre Nintendo 3DS à aller jusqu'à PlayStation sur ma tablette.
Premièrement, je veux faire déprimer le monde à partir de maintenant.
Ça va pas.
L'été est fini.
Hunger Games, c'est aussi une adaptation d'une trilogie qui a été écrite par Susan Collins.
Bonjour et bienvenue à la deuxième émission du podcast de Geekbécois. Je suis Linbou, puis c'est moi votre animatrice. Alors, je suis aussi en compagnie de plein d'amis. J'ai Laurent avec moi.
Bonjour.
Bruno.
Hey, hey.
On a aussi Alexandra.
Bonjour.
Jean-François.
Coucou.
Et Steve.
Salut.
On est présentement au Funzo pour la deuxième enregistrement. On trouve ça bien, bien cool. Et on espère que vous allez triper parce que notre émission est assez bien remplie. Donc, bonne émission à tous. Bienvenue tout le monde. Nous sommes au Funzo ce soir, comme je vous ai dit, et on a décidé de faire cela parce que, comme c'était promis, on a décidé de faire le podcast à des endroits différents. Aujourd'hui, c'est le Funzo. Si vous connaissez pas le Funzo, c'est une espèce de bar sous-sol à maman, rempli de gadgets, ben on peut amener dans le fond nos laptops, notre stock pour faire les podcasts, amusez-vous.
Les fauteuils, hey,
justement, c'est ta maman.
Oui, c'est ça, c'est grand-maman, c'est même pas maman.
C'est ta mère qui s'en vient avec des muffins, là?
Oui, c'est ma mère.
Ça fait vraiment
sous-sol. De jeux vidéo très intéressant à voir.
En plus.
C'est ça, ça fait vraiment sous-sol. Puis ce qui est le fun, il y a des arcades de Street Fighter dans le fond. En plus, il y a une connexion Wi-Fi permanente et il y a minimum, à part le lundi que c'est fermé, il y a minimum quelque chose à faire tous les jours. Fait que si vous cherchez quelque chose à faire, il y a des games de Magic, il y a des jeux de société, c'est à plus fini.
Ouais. Puis je sais, la dernière fois qu'on est venu, il y avait un tournoi de Mortal Kombat qui est vraiment cool. Puis je sais qu'il en organise de temps en temps. Fait que ça peut être super intéressant. Si vous voulez voir, dans le fond, un petit peu plus sur le Funzo, faites votre recherche sur Internet. Ils ont un beau site Internet avec des belles photos. Et Samia avait fait un bel article, dans le fond, avec Koi. Et elle a pris des magnifiques photos. Donc, allez vous gâter sur le site de Geekbécois, bien sûr.
Mais sinon, si vous voulez l'adresse, c'est le 1245... Drummond, c'est à côté du métro Peel.
C'est assez facile à trouver si on se parque pas trop loin. OK. Alors, on va y aller. C'est un site, ça. C'est nous autres, c'est parké trop loin. On va commencer avec Laurent et sa chronique actualité. Command code verified.
Program is ready. System online.
Les actualités techno avec Laurent Chouinard.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien toi?
Oui, très bien. Tu as une couple de choses à nous dire aujourd'hui.
Oui, ben ça a brassé pas mal en actualité. Puis je vais commencer par un sujet qui a à peine fait couler énormément d'encre. C'est la saga entre Apple et Samsung.
Tu as
bon,
des choses à
je
dire.
Dis saga entre Apple et Samsung, mais il faut comprendre que présentement, c'est une saga entre tout le monde et tout le monde. Il y a des centaines de poursuites. Il y a même des sites qui ont été dédiés à essayer d'expliquer et comprendre
juste la
tout le monde qui poursuit tout le monde dans la technologie, parce que présentement, ben si tu ne poursuis pas quelqu'un pour protéger ce que tu as fait, il y a quelqu'un qui va te poursuivre pour la même chose. Fait que c'est un peu comme moi en premier.
Ouais, ouais.
Mais dans ce qui nous intéresse présentement, c'est la saga entre Apple et Samsung, parce que selon Apple, les dernières productions de Samsung de la série Galaxy, donc les téléphones et les tablettes, sont trop pareilles à les appareils de Apple, selon eux. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire une petite mini-explication sur les types de propriétés intellectuelles, juste pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai entendu et lu sur Internet beaucoup de choses qui sont pas tout à fait ce qui se passe.
Ça va être bon même pour moi, ça.
Au Canada, comme pas mal partout ailleurs, on a trois types de droits. Quatre si on compte le droit d'auteur, mais dans la technologie, c'est pas de la création musicale. Fait qu'il y a trois types de droits qui nous intéressent. Le premier, c'est le brevet d'invention. Ça, c'est le gouvernement donne un monopole à quelqu'un ou à une entreprise sur ce qu'il aura créé, qui est une invention technologique moderne, dans le but de ne pas décourager l'effort que ça a pris pour le faire.
Okay.
Donc, on dit à quelqu'un, oui, met l'effort de plusieurs années et des millions de dollars en développement pour pouvoir faire une nouvelle technologie. En récompense de ça, on donne une exclusivité. Dans notre cas ici au Canada, c'est 20 ans fixe sur ton invention pour que tu puisses bénéficier de ce que tu as créé. C'est pour pousser l'innovation plutôt que la copie.
Ouais, c'est bon.
Mais ça, c'est des inventions, donc des innovations technologiques, quelque chose qui n'existait pas avant, qui a été créé par l'effort. Deuxième droit, la marque de commerce. Celle-là, on s'en sert pour commercialiser les produits, pour les distinguer, soit mon nom d'entreprise versus d'autres entreprises. Comme moi, mettons, je m'appelle Laurent Tondeuse, je vends des tondeuses. Ben, si quelqu'un d'autre décide de se partir d'une compagnie qui s'appelle Laurent Tondeuse aussi, les gens pourraient appeler lui plutôt que moi et me voler mes clients.
Okay.
Donc, pour me protéger contre ça, je dépose une marque de commerce qui est Laurent Tondeuse dans le marché des tondeuses. C'est moi, je possède une exclusivité que le gouvernement donne pendant 15 ans.
À ce moment-là, personne ne peut utiliser Laurent Tondeuse.
C'est ça, on peut utiliser Laurent autre chose.
Si quelqu'un se fait baptiser Laurent Tondeuse.
Il y a des exceptions. Pardon?
T'as pas inventé la tondeuse.
Non, j'ai pas inventé la tondeuse, c'est ça.
Il a peut-être inventé la tondeuse, Laurent.
Oui, c'est un modèle. Troisième droit, puis là, c'est celui qui est vraiment important aujourd'hui dans la discussion, c'est le dessin industriel ou, en anglais, le community design ou le modèle communautaire pour en Europe. C'est à peu près la même chose partout dans le monde, là, des petites variations légales d'une place à l'autre, mais en gros, c'est qu'en plus d'avoir un brevet d'invention sur quelque chose qui a été créé, puis une marque de commerce sur le nom ou le logo associé à un produit ou à une entreprise, on peut aussi déposer un dessin industriel sur comment on a fait la chose physiquement. Donc, le meilleur exemple, c'est un designer qui ferait, mettons, une chaise.
Okay.
Un designer qui va faire une très, très belle chaise. Ça lui a pris des années. Il a fait 50 modèles de sa chaise avant de tomber sur la chaise parfaite, les bonnes couleurs, les bonnes textures, les bons matériaux. Une fois qu'il a sa vraiment belle chaise, il va déposer un dessin industriel de façon à ce que personne d'autre puisse faire exactement la même chaise pendant une période de temps pour récompenser l'effort que lui, ça lui a pris pour créer cette chaise-là.
OK.
Ici, c'est 10 ans, renouvelable, même chose. Puis là, ben, c'est là-dessus que
c'est
la bataille se
part.
Joue. Parce que Apple, ils disent dans leur poursuite que les appareils de Samsung, puis là, ça a commencé avec le téléphone, le Galaxy S, trop identique aux produits d'Apple,
okay.
À un point tel que même les emballages, les boîtes, les publicités, tout est semblable.
Okay.
Et leur point, c'est nous, toute cette chose-là, tout cet éventail, les choix de couleur, les choix de grosseur, les choix de forme, tous ces choix-là, ce sont nos designers qui ont tous produit ça et ça représente la totalité de ce qui nous appartient. C'est notre image, c'est notre marque. C'est la forme d'une bouteille de Coca-Cola est différente de la forme d'une bouteille de Pepsi.
Ça, c'est puis, Apple qui, dans le fond, critiqué Samsung directement.
Oui, c'est ça.
C'est
ils ont
premiers,
dit,
dans le fond.
Il y a des, tu sais, dans vos designs, vous auriez pu choisir différents chemins pour produire une tablette, mais vous avez choisi celui qui est le plus proche d'être pareil à nous.
Mais tu sais, c'est une compagnie, excuse-moi Laurent, s'il y a une compagnie de souliers qui fait des running shoes blancs avec une semelle verte, puis qu'il y a une autre compagnie qui en fait aussi.
Il y a une différence qu'il faut comprendre, c'est à quel point pareil c'est.
Ouais.
Moi, si, mettons, je vois la nouvelle paire de souliers Nike, je le vois à la télé, je vois quelqu'un qui me la montre, elle m'intéresse, elle est belle, je vais dans un magasin, puis j'en vois une, c'est celle-là. S'il y en a une qui est pareille à celle-là, c'est donc une copie, et Nike va poursuivre le fabricant de la contrefaçon de design. C'est ce qui arrive beaucoup avec les entreprises chinoises, qui vont copier des designs de produits, faire carrément des duplicata,
ouais.
Et eux, à cause des lois dans leur pays qui ne bloquent pas ça, ben nous ici, on ne peut rien faire. Mais en gros, c'est ça la problématique. Donc, oui, on peut faire des souliers semblables, mais on ne pourrait pas faire des souliers pareils.
Okay.
On peut faire un logo, comme pour une marque de commerce, si je fais un logo avec un swoosh comme Nike, le logo, mais s'il est trop pareil, je peux être poursuivi pour avoir copié leur design parce que je vais confondre un consommateur qui s'attend à voir le produit X, puis en fait, il y a Y.
Oui, c'est ça.
Il faudrait pas que ça débarque en Chine, ça?
Ben, il y a beaucoup de pression pour que le gouvernement chinois embarque puis essaie de faire, mais eux préfèrent stimuler leur économie de cette façon-là. Enfin, c'est toute une autre discussion, mais la poursuite à la base, c'est ça. Puis j'ai sorti quelques petites photos juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Là.
OK.
À gauche, un iPhone, à droite, un Galaxy S.
Aïe, aïe.
Ça se ressemble vraiment beaucoup. La forme est presque pareille.
Ouais,
L'interface.
L'interface est très semblable. Fond noir, des rangées de 4 icônes par 4 icônes. La barre en bas, le dock. Même le fond gris en arrière du dock, c'est pratiquement la même chose.
C'est assez
quelqu'un qui ne fait pas attention, parce qu'on s'entend, tout le monde qui est pointu technologiquement va le voir la différence.
Ouais.
Tu me donnes un Galaxy, je vais savoir si c'est pas un iPhone. Ah oui. Tu me donnes un iPhone, je vais savoir si c'est pas un Galaxy.
C'est ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que la majorité des consommateurs vont vont pouvoir faire le choix ou est-ce qu'il va y avoir un risque de confusion sur le marché? Puis ça, il semble y avoir un risque de confusion. Au même titre que la forme de la tablette. La forme de la tablette, c'est exactement le même arrondi. C'est pas... Oui, c'est arrondi, pareil. Il y en a d'autres, comme la Xoom aussi est arrondi. Mais si vous regardez une Xoom de Motorola à côté d'un iPad, la différence est claire. Si vous regardez un Asus Transformer, c'est encore plus différent. Pourtant, chacun a travaillé fort pour avoir un beau design, puis leurs appareils sont très beaux. Je les trouve très jolis. Mais pourtant, si on regarde le design d'un Galaxy, puis c'est d'ailleurs, c'est un Galaxy, c'est une tablette, c'est exactement les mêmes coins, selon moi.
Ouais.
La même bordure, la même largeur, les mêmes couleurs, le même fond grisard blanc. Ça c'est ressemble vraiment pareil. Beaucoup.
Laurent est en train de nous montrer son Galaxy.
Oui, c'est ça. Vous pourrez voir sur le site de Geekbeak.
Oui, sur le site, on va tous mettre les photos.
Peut-être le comparer avec l'iPad de Alexandra. Oui,
mais là, sont dans des caisses, les deux. Okay, là, c'est plus difficile.
Mais je te dirais que moi, si ma grand-mère veut me faire un cadeau, puis elle se dit « Ah, je t'ai pogné un iPad », elle passe à côté du Samsung, elle va voir qu'il est moins cher. C'est sûr qu'elle m'achète ça en pensant.
C'est
que...
ce genre de distinction-là qui fait une confusion dans le marché. Je vous montre un autre exemple. Le même téléphone Galaxy dans son emballage versus l'emballage d'un iPhone. La même boîte noire, le même produit quand
même
on regarde dedans, le même intérieur, le même format, le même packaging. C'est vraiment très, très similaire.
C'est flagrant.
Même chose pour un emballage d'iPad versus un Galaxy Tab. Regardez, la même photo du même appareil sur le dessus, la même boîte blanche avec la petite poignée en haut, la même façon de l'ouvrir, c'est très, très, très similaire. C'est sur des points comme ça que Apple fait sa poursuite contre Samsung.
Mais toi, ton opinion de ça, tu sais, quand tu regardes ça, t'es-tu du côté d'Apple de dire que oui, il y a eu du plagiat ou...
Mets-toi à la place d'Apple.
Oui, c'est sûr.
Tu crées une chanson, puis il y a un artiste qui en sort une presque... Ben, je sais que les droits d'auteur en musique, c'est différent, là, mais qui en sort une pratiquement pareil avec des morceaux d'instrumentation de ta chanson qui ne te demande pas les droits puis qui se met à faire de l'argent sur ton dos.
Mais j'imagine que Samsung se défend à quelque part en disant qu'ils l'ont pas fait.
Oui, tout à fait. Eux autres, ils disent « Non, c'est un design très générique. C'est juste un rectangle arrondi. » Puis là, ils sont amusés à sortir plein d'exemples antécédents qui seraient des similitudes ou non. Là, n'est pas vraiment la question. Oui, dans le passé, il y a plein de choses qui peuvent avoir ressemblé à ça. La question que les tribunaux, ce qu'ils doivent décider, c'est ça, c'est est-ce que présentement, dans un marché de tablettes électroniques, est-ce qu'un consommateur qui connaît une marque pourrait être confus à acheter une autre?
OK.
Puis je pense que oui.
Je pense que oui, moi aussi.
Je pense que oui, parce que tous les autres manufacturiers de tablettes ont tous produit des choses qui sont très différentes. Oui, ce sont tous des rectangles, à peu près toutes la même épaisseur, la même grosseur, ils se ressemblent tous. Mais si on met sur une table plusieurs produits de marques différentes, on voit la différence.
Directement.
Sauf quand on regarde certains des produits Samsung avec certains des produits Apple. Mm. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Puis c'est ça que la Cour dit. La Cour n'a pas tranché qu'il s'il y a une copie. Ils ont dit, oui, c'est suffisamment important comme distinction, comme similitude, pour que ça vaille la peine qu'on accepte d'entendre la cause et qu'on arrête temporairement la vente des tablettes en Allemagne. Même si ça, en réalité, ça donne absolument rien. Mm. Parce que la Cour a seulement empêché Samsung Allemagne de vendre en Allemagne. Fait que Samsung Corée vend ses tablettes en Allemagne.
Ça change rien.
Les manufacturiers importent du reste de l'Europe. Ça change absolument rien pour le marché.
Samsung Allemagne peut vendre n'importe où dans le monde, sauf en Allemagne aussi.
C'est à peu près ça. Là. C'est vraiment comme présentement, l'injonction est purement symbolique. Puis en fait, toute cette saga-là, en ce qui me concerne, l'impact ne sera pas pour Samsung ou Apple vraiment. Je pense que ce qui va être important, c'est de voir quand ça va être conclu puis que la Cour va trancher, ça va nous mettre un précédent où on va être capable, avec plus de précision qu'avant, de savoir jusqu'à quel point des manufacturiers d'appareils électroniques peuvent suivre le design de quelqu'un d'autre dans une presque copie en essayant de, innover un peu, mais copiant. On se rappelle, le couvre de la première tablette n'était pas exactement celui-là. C'était la même chose avec les trois panneaux. Il y a eu aussi des poursuites pour la couverture. Oui, oui. Puis, il n'y a pas juste ces appareils-là qui ont suscité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres poursuites présentement. Apple vient de déposer une poursuite aussi au Japon contre Samsung pour la même chose. Il y a des poursuites contre HTC. Ça finit plus. Mais, à part les brevets d'invention, parce que ça, j'en conviens, il y a des poursuites de brevets d'invention. C'est tout un autre game. Là, on parle vraiment des designs techniques, design industriel, de l'apparence des produits et de la façon qu'ils sont mis en emballage, qu'ils sont mis en tablette et vendus aux clients.
Est-ce qu'on a une idée du montant pour lequel Apple voudrait poursuivre ou pas du tout?
Non, absolument pas, puis ça va probablement traîner en cours pendant des années. Parce
j'ai
que
entendu
là...
dire que c'était 12,50.
Mais de ce que j'en... Moi, de ce que j'ai entendu, puis regarde, corrige-moi si j'ai tort, Apple ne poursuivrait pas nécessairement pour l'argent, mais plus pour le fait de bloquer les pads dans ces marchés-là. T'sais, on s'entend qu'en ce moment, ça ne change rien parce que Samsung Corée utilise le loophole pour envoyer leurs pads, puis ça change rien. Mais reste que... On dirait que Apple poursuit toutes les compagnies qui peuvent pour justement empêcher les ventes des appareils pour continuer l'espèce de suprématie qu'il y avait des téléphones intelligents. Apple essaie de dire « Non, c'est moi qui est allé en premier, va-t'en. »
Ben, c'est ce feeling-là. En entreprise, c'est normal parce qu'en entreprise, toutes les compagnies technologiques sont hautement compétitives l'une par rapport à l'autre et chaque petite partie qui sont capables d'aller chercher pour dépasser leur concurrent, ils vont l'utiliser. Que ce soit des tactiques de poursuite, que ce soit des tactiques des fois de copie, il y a des choses qui sont pas tout à fait légales qui ont été faites par chacun. À un moment donné, on le sait que la game, c'est dur en technologie. Ouais. Quand tu sors un nouvel appareil, tous les autres te talonnent. Il y a des espions industriels qui vont aller voir les appareils avant qu'ils sortent. D'ailleurs, Samsung s'est essayé. Pendant les poursuites, ils ont demandé à la cour de donner droit de voir les design du iPad 3 et du iPhone 5
déjà,
avant qu'ils sortent sur le marché parce qu'eux autres disaient « Oui, on va regarder avec les appareils futurs pour être sûr qu'on ne soit
qu'on
pas trop près. »
Hein?
Clin d'œil, en fait, il aurait voulu avoir une idée de ce qui s'en vient en tendance.
Oui,
puis ça a été refusé. Mais bon, c'est une game très féroce et c'est à coup de dents que ça se joue puis dans les tribunaux pas mal souvent.
Parce que moi, le feeling, c'est qu'ils ont de la misère à faire de la compétition. Puis gars, je veux pas dire que Samsung n'est pas nécessairement dans le tort. J'aime Samsung, j'aime Apple pour leur esthétique de produits en général. C'est juste que moi, ce que je trouve, c'est qu'on dirait que Apple poursuit, parce qu'on s'entend, HTC, il n'y a rien dans le téléphone qui ressemble à un iPhone. Pourtant, il est poursuivi. Parce que pourquoi t'as un touchscreen ou whatever? Je trouve que ça fait pas de sens que Apple décide de poursuivre tout le monde pour justement essayer d'empêcher le marché parce que c'est pas de l'argent qu'ils demandent, c'est des injonctions de marché.
Mais on a vu récemment avec la grosse bataille des brevets d'invention de la liquidation de Nortel qu'il y a une game qui se joue, c'est poursuis ou sois poursuivi.
Ouais.
Puis à un moment donné, quand tu vois toutes les poursuites des compagnies ensemble qui essayent d'obtenir la suprématie des brevets d'invention, puis là je parle de brevets d'invention, ben, la plupart se sont dit, là, il faut qu'on se protège, puis c'est ce que Google a fait, se ramassant tout un portfolio de brevets d'invention de façon à se défendre. C'est une grosse game, puis on pourrait en parler longtemps là-dessus, mais je veux me garder du temps.
Mais par exemple, Laurent, j'aimerais ça que quand on va avoir plus de développement sur cette saga-là, j'aimerais ça qu'on puisse en reparler dans les prochains. Si on en a le mois prochain, ben, j'aimerais ça qu'on puisse revenir là-dessus.
Ça risque d'être long, par exemple, parce que là, ça a été les injonctions, c'est terminé, ils ont été refusées. L'injonction provisoire a été maintenue, donc maintenant on tombe en procès normal. C'est pas avant un an qu'il va y avoir un dénouement de ça.
Bon, ben dans un an, on en reparlera.
C'est ça, on en reparlera.
Tu voulais nous parler de Skype aussi qui se lance dans la téléphonie
résidentielle. Téléphonie locale, oui, parce que pendant longtemps, Skype a été un service accessible de l'ordinateur. Après ça, c'était ordinateur et téléphone avec application, puis maintenant avec les tablettes. Mais c'est toujours Skype à Skype pour faire des appels. Évidemment, la connexion de Skype avec les lignes locales se fait depuis longtemps au moyen de Skype Out, les crédits, je peux appeler le numéro de téléphone, puis on peut acheter un numéro pour recevoir des appels. Mais il faut toujours être assis sur un ordinateur ou un appareil, à l'exception évidemment de certains téléphones Wi-Fi faits exprès. Là.
Ou certaines tablettes.
Oui, les appareils mobiles. Mais là, leur changement qu'ils ont apporté, c'est que maintenant, il y a une boîte, un appareil de conversion. C'est un convertisseur ATA là, pour Analog Telephone Adapter. Ce qui fait qu'on peut prendre notre téléphone de maison, tous nos téléphones de maison, les brancher là-dedans. Et là, ça, c'est sur Skype maintenant.
Ah, ouais.
Donc, quand notre numéro entrant sonne de Skype, les téléphones de la maison sonnent, on répond, on fait des appels sortants directs. Le prix de lancement, c'est $70 pour l'appareil qui inclut un an illimité
d'appel.
Je pense Canada, États-Unis.
Entrant et sortant.
Entrant et sortant,
oui.
Puis après ça, on fait juste suivre avec les souscriptions normales, les achats normaux d'abonnement de Skype pour continuer.
Je pense
continuer.
Que Skype, c'est 2 sous la minute en appel.
Mais pour ceux qui ont lu mon article sur Geekbécois il y a plusieurs mois sur Free Phone Line, parce que moi, chez moi, j'ai pas le téléphone standard Bell, j'ai la téléphonie IP avec Free Phone Line.
Okay.
Donc, j'ai fait la même chose que ça l'année passée. J'ai acheté un bidule, un convertisseur de Linksys. J'ai branché tous mes téléphones de la maison là-dessus et maintenant, mon téléphone local de maison passe par les réseaux de Free Phone Line plutôt que Bell. donc j'économise. C'est très intéressant parce que c'est gratuit. Mais dans le fond, Skype vient jouer dans ces plates-bandes-là maintenant.
OK. Ils mais viennent se mettre online, est-ce que tu as des cartes aussi? C'est la même chose? Même c'est, concept que Skype aussi? Que,
c'est plus directement téléphone. Donc, okay. Skype, c'est aussi pour communiquer avec des gens sur Skype. Il y a aussi la vidéo, il y a aussi le chat, il y a aussi la messagerie. Mais Free Phone Line, c'est vraiment 100% téléphonie. Okay.
Ah,
donc, c'est des téléphones à téléphone. Fait que, ben, c'est ça. Dans le fond, Skype s'en vient jouer dans ces plates-bandes-là. Puis ça peut. Le réseau de Skype est très, très, très fiable parce qu'ils ont des années d'amélioration technique là-dessus. Fait que ça peut être intéressant comme remplacement de ligne téléphone maison.
J'utilise beaucoup Skype, là, puis c'est pas pour bâcher sur Microsoft, mais depuis qu'il y a eu un transfert, je sais pas s'il y a eu des gens du soutien technique ou de la qualité qui ont pris le bord, là, mais j'ai eu bien des appels droppés, j'ai bien des appels, j'ai l'impression que j'appelle dans un aquarium. Là. Mais c'est peut-être une coïncidence.
Mais il y a aussi des podcasts, d'autres podcasts qui, Mike Gamers, le font justement par Skype.
Oui.
Puis souvent, il y a des bugs. Là. Ça arrive, mais tu sais, c'est pas
une chose majeure, est sûre,
rien
par exemple.
De majeur, mais ça l'a changé quand même. On dirait qu'il y a quelque chose qui a bugué depuis.
Une chose est sûre, par exemple, c'est que quand on utilise la téléphonie IP, il faut absolument et impérativement configurer notre routeur Internet pour mettre la priorité du trafic sur le téléphone.
Ouais.
Moi, avant que je fasse ça, un appel sur deux, c'était coupé. Puis quand j'ai lu dans les forums, ah non, mais c'est parce qu'il faut que tu dises à ton routeur que le top priorité, c'est ta conversation téléphonique. Puis après ça, c'est tout le reste. J'ai configuré mon routeur, puis depuis, plus aucun problème. C'est la même chose avec Skype. Si on fait rien, notre routeur Internet va donner un peu à tout le monde.
Partage.
Un peu pour le download sur YouTube, un peu pour tes emails, un peu pour ton web, puis un peu pour le téléphone. Fait que si jamais de quoi de gros qui passe, le téléphone peut couper une fraction de seconde.
Okay.
Avec la configuration adéquate de priorisation, là, c'est toujours le téléphone qui va avoir le dessus. Ça permet de maintenir une conversation. Fait que si, comme pour toi qui a des problèmes avec Skype, ça peut valoir la peine de peut-être regarder ça.
Ça vaut la peine de vérifier. Ça, ouais, c'est ça, c'est une bonne idée de vérifier
aussi
ça.
Que souvent, j'utilise Skype pendant que je suis en train de jouer à des jeux.
Ah, ben, c'est ça, ça peut faire ça la différence.
Est partagée,
Mais avec la priorisation, ça prend vraiment pas beaucoup une conversation. Là. C'est une fraction d'1% de la bande passante classique qu'on a à la maison. Mais avec la priorisation, ça va toujours bien fonctionner.
Ouais, c'est bon, c'est
très bon à savoir, Laurent. Et tu voulais aussi nous parler de la drop du satellite qui nous a quittés?
Je suggère à tout le monde qui sort dehors à la fin septembre de porter un casque parce que la NASA nous annonce que le satellite Upper Atmosphere Research Satellite, qui a été lancé il y a assez longtemps, de 6 tonnes à peine, va nous tomber sur la tête parce que le satellite n'est plus en usage et puis on va le faire détruire en entrant dans l'atmosphère.
OK.
La majorité va être détruite en feu, donc il va se désintégrer. Mais la NASA a quand même calculé qu'il y a une chance sur 3200 que une des pièces tombe sur un être humain.
OK,
je trouve que c'est quand même
c'est
assez probable. Donc,
c'est plus que les viaducs à Montréal.
Il va falloir regarder les...
C'est clair que je sors avec mon bat de baseball puis j'attends le morceau.
Ben oui, il va le garocher sur quelqu'un d'autre, c'est le fun.
Non, mais les statistiques sont... Tu sais, c'est quand même des statistiques qui sont... Sur tes parents,
là, oui, bien, là, présentement, le calcul est très pessimiste parce qu'on ne sait pas exactement où il va tomber. À mesure qu'on va s'approcher du moment où le satellite va entrer dans l'atmosphère, les calculs vont se préciser et on va avoir une meilleure idée de à quel endroit dans le monde.
Aussi dans l'atmosphère.
Oui, c'est ça, mais il va brûler, à mesure qu'on va savoir plus précisément où il va rentrer dans l'atmosphère, on va pouvoir savoir plus précisément où il va tomber.
Et qui vise.
Puis qui vise. Donc, on va pouvoir envoyer un email à...
satellite qui
tombe
aujourd'hui.
Oui, attention, en Europe, si vous autres mettez un casque à la tête demain.
Colette, elle va prévenir.
Non, mais je veux dire, ça va faire comme Twitter, le tremblement de terre. C'est sur Twitter. Attention, des morceaux commencent à tomber. Quoi? Oh, il y a des morceaux qui tombent. Tu sais, je veux dire, on niaise pas, là.
Vite.
Puis je veux dire, c'est XKCD qui avait le comic XKCD qui avait annoncé ça, cette fameuse affaire-là. C'est qu'il y a une bonne journée, il va y avoir un tremblement de terre, puis le monde va tweeter « J'ai un tremblement de terre », puis la personne qui va lire le tweet va ressentir le tremblement de terre
ça va aller vite,
quelques millisecondes avant. Quelques
après.
Millisecondes
oui, parce
après.
Que l'information voyage plus vite que le tremblement de terre qui est quand
c'est
même
ça.
Lent
c'est
dans
fou,
le sol.
Imagine.
Fait que, ben, c'est ça.
Moi, j'aimerais
super,
ça que ça arrive.
Super intéressant.
J'aimerais ça que ça arrive le soir.
Ben, ce qui peut être intéressant.
Oui.
Dépendamment d'où il tombe, oui, ça peut donner une très belle présentation dans le ciel de la désintégration du satellite si on peut le voir.
Si ça tombe pas sur personne.
Oui.
Je veux dire, si tu vois le morceau à deux pouces de ta face, il est peut-être trop tard.
C'est ça. Alors, merci Laurent.
Merci Laurent, j'ai été éduqué aujourd'hui.
Oui, très éduqué. Alors, on va parler de jeux vidéo un petit peu avec moi-même.
Mmh. voici Linbo.
Hey, bonjour Lynn, ça va bien? Oui, ça va bien toi. Bon, alors aujourd'hui, comme...
Elle n'a pas pris ses pilules aujourd'hui, oui, je savais qu'elle avait oublié de quoi.
Je sais pas. Alors, comme le mois passé, je vais vous parler des jeux à venir en septembre. Et on sait que ça va être différent du mois d'août qu'on avait fait parce qu'il n'y avait pas grand-chose.
Septembre, c'est la rentrée des gros jeux. On se prépare pour les achats de Noël.
Oh,
tout septembre, octobre, c'est là.
Ça va fesser. Le même novembre, il y a
du gros stock. Vous allez décider de votre liste d'épicerie pour les fêtes.
Oui, c'est ça. Elle sera petite si on veut beaucoup de jeux. Alors, allons-y. Le 13 septembre, qui est mardi, et ça va sûrement être déjà passé à ce moment-là, quand on va sortir le podcast. Mais si vous n'êtes pas au courant de ce qui est sorti, on vous le dit quand même.
C'est comme un voyage dans le temps pour ceux qui l'écoutent le 15.
Là. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est Back to the Past, en tout cas. Whatever. OK. Et Jean-François, vous ne le voyez pas, mais il jamme tout seul. Alors, on va commencer avec God of War, que Jean-François va nous parler un petit peu plus tard. Donc, je saute le sujet, mais God of War va sortir.
Quelle date?
Le 13. Donc, en même temps, il faut que j'en parle. NHL 12 va sortir le 13.
On perd Lynn, ça, c'est sûr.
Mais c'est pas que je l'ai déjà chez nous, en tout cas. Alors.
Moi, je veux remercier mes parents de m'avoir conçu en janvier. Comme ça, je suis né en septembre. Fait que j'ai tout le temps un cadeau assuré avec NHL à chaque année.
Oh, c'est stratégie.
Ah, oui, c'était tout calculé. Ben, moi aussi, je suis en septembre.
je vais shooter à question plate. C'est quoi qui est différent de NHL 11?
Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Il reste que.
Ouais, entre autres.
Tu sais, il reste qu'un jeu d'hockey, c'est un jeu d'hockey. Il essaie de mettre tout le temps des petits surplus. Donc là, cette année, il y a le côté que le goaler, on peut plaquer le goaler. Donc ça donne.
finalement.
Mais j'ai bien hâte de voir. J'ai pas pu l'essayer en multijoueur, mais en multijoueur, si tu joues 2 contre 1, j'ai bien hâte de voir à quel point que ça va être fatigant qu'il y ait un joueur qui reste à bûcher sur ton goaler pendant que toi, tu essaies. T'as juste à tirer. Tu sais, ça va être.
C'est le goaler que je suis.
On se créerait une game de StarCraft que t'arrêtes pas d'écœurer un joueur pour que les deux autres allaient te poigner.
Ça va être un peu... d'après moi, ça va être un petit peu mitigé, ce côté-là. Mais anyway, pour ceux... Je fais pas une grosse critique de tout ça, mais c'est surtout pour dire que j'ai très hâte au 13 parce que présentement, je suis en train de le tester pour un autre contrat. Et pour Monsieur Depp, disons-le. Et je vais faire ma critique mardi. Donc, j'ai surtout hâte d'avoir des gens pour jouer avec moi le 13 parce que là, je m'ennuie tout seul chez moi parce qu'on s'entend que NHL, c'est un jeu d'online et multijoueur. C'est incroyable. Ça me fait plaisir de battre tout le monde online. Vous êtes les bienvenus. Alors, ça sort sur Xbox 360 et PS3, donc bienvenue à tous. Il y a From Dust qui va finalement sortir sur PS3, que ça, c'est le 13 aussi que ça sort. On a eu des super bonnes critiques sur Xbox, alors on l'attend et vraiment on l'attend fort sur PS3.
Ça, c'est sur PSN qui sort?
Oui, sur PSN, oui, c'est sur PSN. Et bon, ça, c'est un petit gag pour moi parce qu'il y a Call of Juarez qui sort le 13 aussi, sur PC et c'est de la merde.
juste à Monsieur Net, là, ouais. Ça, c'est une émission qui joue à Musique Plus.
Oui, c'est ça.
Et ils l'ont pas très bien accueilli.
Non, ben moi, je l'ai essayé et honnêtement...
Tu l'as essayé chez nous, tu l'as pas très bien accueilli.
Non, je l'ai vraiment pas bien accueilli, même que je l'ai... Oui, je m'étais dit...
Il a passé 2 heures dans le PlayStation, puis le restant de la semaine, il était sur la table comme souvent.
Ben, c'est-à-dire que...
Mauvais à ce point-là.
Ah, c'est incroyable. Pour vrai, là, une des pires choses, c'est tout ce qui est poursuite d'auto, parce que les points de repère pour aller d'une place à l'autre, c'est un espèce de petit point blanc vraiment pas précis et surtout, c'est vraiment comme... c'est mal indiqué, ça n'a pas de sens. Puis la caméra, tu es obligé d'être à l'intérieur du véhicule. Fait que déjà, c'est déjà...
Pas de vue par-dessus l'auto?
Il n'y a pas aucune vue par-dessus l'auto. Fait que là, si tu es à l'intérieur, ça chambranle au bout. Faut que tu tires en même temps. Il y a des autos qui te pitchent dans la face, mais tu meurs pas. Ça va bien.
Ouais, mais peut-être que ça représente vraiment à quel point c'est difficile d'être un gangster mexicain.
Peut-être. Il y a peut-être de ça.
J'ai peut-être juste pas dans le sang.
Oui, c'est ça. J'ai pas vu.
Dans ce cas-là, j'aimerais mieux être présent si tu n'es pas capable de savoir où tu t'en vas.
Oh non, c'est ridicule. Puis les tirs, il y a trop de choses qui sont mal faites. En tout cas, moi, j'ai été vraiment déçue. Puis même, c'est ça, je l'ai retourné tellement rapidement, ce jeu-là. Je l'avais loué parce que je voulais juste le tester pour faire une critique de Geekbécois. Et je l'ai retourné au magasin en disant, finalement, je vais prendre d'autres choses. Je vais pitcher le CD au bout de mes bras. Et je suis contente de m'avoir fait, justement, par Monsieur Net. Quand j'ai vu qu'il y avait une mauvaise critique, je me suis dit, OK, c'est pas moi qui est folle. Là. Alors, ça sort sur PC pour les intéressés. Il n'y en aura aucun.
Tu viens-tu de faire dropper leur vente?
Oui, je pense que oui. Le 19 septembre, il y a Kirby Mass Attack qui sort sur la Wii. C'est sur la Wii, oui. Ça va être un des avant-derniers jeux, je dirais, l'avant-dernier gros jeu qui va sortir sur la Wii. Et on va parler du dernier gros jeu qui devrait sortir un petit peu plus tard. Alors ça, c'est le 19 septembre que ça sort. Le 20 septembre sur Xbox pour les fans, les fanboys qui sont prêts à attendre Gears of War 3. Ça, ça risque d'être
prêt à
assez... Ben, ceux qui n'ont pas
ceux
d'Xbox.
Ceux qui
n'ont
pas de... Ouais, c'est ça,
pas mal. Ça, c'est... Okay. Moi, ça me change vraiment rien.
Et dont nous. Et le 27 septembre, on a FIFA 12 pour les fans de soccer et de football.
Ah ben,
et
12 football, en français, football. Ça veut dire 27?
C'est 12, oui. Ah, 12. 12, oui. Faut toujours guider Steve. Alors, il sort sur PS3 et Xbox. Et le 30 septembre, c'est Tomb Raider. Je ne sais pas si vous connaissez la franchise.
Ah, non, c'est le reboot de Tomb Raider qu'ils ont présenté au E3, c'est ça?
Oui, exactement, qui a l'air assez malade. Et les images sont complètement hallucinantes. Ouais, ça,
j'ai entendu.
Oh, oui.
Ça a moins l'air de « regarde pas le chest de la madame, oui, mais regarde
ça.
L'aventure
regarde
de
le
ses photos. »
À date, j'ai entendu des choses très polarisées sur
ah,
ce
oui,
jeu-là.
Ah oui, pour vrai?
À la fois, c'est absolument exceptionnel et c'est le meilleur jeu de l'univers de certains, et c'est une merde de d'autres.
Ah ouais.
J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air pour vrai une fois sorti.
Ça, c'est des...
The best game ever.
Oui, c'est ça, exactement.
On verra.
Je veux dire, je pense que ça va être un cas de love it or hate it, mais je veux dire, en même temps, quand tu parles de Tomb Raider, c'est vraiment pas la franchise la plus appréciée de la planète.
Non,
parce qu'on s'entend, le premier jeu, ça a été vendu juste parce que la fille portait du triple Q.
Et pas pour moi, je l'ai pas acheté pour ça.
Non, mais je veux dire...
C'était un bon platformer. C'est juste qu'à un moment donné, on est tanné de chercher les Switch puis les clés, puis bon.
Ben, c'est pas mal toutes les platformers en général.
Non, mais ça dépend de la quantité.
Tomb Raider, ça fait un petit peu la série fétiche de la PS1, là.
Mm-hmm. Ouais. Ben, tu sais, je pense que Tomb Raider, anyway, les fans de Tomb Raider vont se retrouver là-dedans, c'est sûr. Puis rendu là, il va y avoir des critiques, il y en a dans tous les jeux, des mauvaises critiques. Fait que on se fera nous-mêmes notre opinion et on va faire une belle critique de ça, j'en suis certaine. J'avais un autre sujet que je voulais parler avec vous ce soir, ou ce jour, en tout cas, ça je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'aimerais ça parler des jeux les plus attendus de l'automne. J'en nomme 4. Et j'aimerais savoir un peu votre opinion, celui que vous attendez le plus, juste pour voir environ votre opinion, vos goûts, qui va jouer à quoi, bref. Alors, je vous nomme Batman Arkham City, qui sort le 18 octobre, Battlefield 3, qui sort le 27 octobre, Call of Duty Modern Warfare 3, qui sort le 8 novembre, et The Legend of Zelda Skyward Sword, le 20 novembre. Alors, on va commencer par Steve pour le fun. Qu'est-ce que toi, t'attends le plus là-dedans?
Je te ferai un beau pâté chinois avec tout ça, moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Battlefield, surtout avec le preview que j'ai vu au E3. Tu sais, j'ai perdu connaissance deux fois.
Oui.
Puis, j'étais un petit fan de Call of Duty. Fait que Modern Warfare 3 va venir me chercher officiellement. Peut-être moins pour le mode histoire, mais surtout pour le multiplayer. Là.
Moi, ça va être le mode histoire.
Ah ouais, c'est ça. On va l'acheter à deux. Lynn va jouer l'histoire, je vais jouer en multiplayer. Batman, je suis curieux. Le premier était vraiment bon. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis Zelda, malheureusement, je suis pas super fan de Zelda, au risque de me faire défoncer mon char. Mais à part ça, non. Pour vrai, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est pas mal Modern Warfare 3.
OK. Laurent, toi?
Ben moi c'est Zelda, okay. Parce que j'ai bien aimé Twilight Princess, puis ben j'ai encore juste une Wii, fait que...
Ok, c'est ça, on va y aller pour la Wii.
J'ai pas énormément de choix quand vient le temps de mettre des
D'ailleurs,
nouveaux jeux.
D'ailleurs, Zelda devrait être le dernier jeu vraiment que la Wii va sortir avant que ça devienne la Wii U, donc oui. Je pense que c'est le gros titre.
Jeu.
Oui, c'est le dernier gros titre qui va sortir.
Parce que sinon, si on compte tout le Shovelware, on n'a pas fini pour au moins un an.
Ouais, non, c'est ça, sûr. Il va en avoir un peu encore.
Le lecteur Shovelware, ça veut dire quelque chose que tu peux pogner une pelle, l'effouérer ou pogner une pelle puis l'enterrer.
Non, c'est ça, et ça, il y en a beaucoup. OK, ben merci Laurent. Toi, Bruno, c'est quoi t'attends de plus?
Moi, ça va être pas mal tough parce que je veux dire, j'étais un gros fan de Zelda fini. Fait que tu sais, je veux dire, Twilight Princess, c'est haut dans ma liste. Malheureusement, pas Twilight Princess, excusez-moi, Skyward Sword, c'est vraiment haut dans ma liste. Mais je vais opter pour Arkham City pour la simple et bonne raison que le premier Batman, premièrement, Arkham Asylum, ça a été le premier vrai jeu de Batman jouable.
Ouais.
Tu sais, je veux dire que.
Les jeux
pas...
de super-héros en général.
Ben, c'est ça, tu sais, dans les jeux de super-héros, c'est le premier jeu que j'ai eu tellement de fun à me mettre une gargouille, me mettre à l'envers, pogner un gangster, le faire tomber, puis faire peur à du monde. Puis tu sais, dire, hey, je suis Batman. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, ok, c'est nice. Puis en plus, il va y avoir Catwoman qui va être jouable.
En plus.
Il va y avoir d'autres.
Oh, on va lâcher de bord.
Non, mais tu sais, je veux dire, il y a tout plein d'affaires. Moi, malheureusement, les deux gros shooters que tu as mentionnés, Battlefield, j'attends plus que Call of Duty. Pourquoi Call of Duty 3? Ça ressemble, ben, Call of Duty Modern Warfare 3 ressemble à Modern Warfare 2. Ce qu'ils nous ont montré au E3, ça m'a littéralement pas impressionné. Je suis resté assis, puis c'est comme, c'est une belle cinématique de début.
Ouais.
C'est pas vraiment une mission que tu as quelque chose à faire. Je veux dire, quand j'ai joué au mode histoire, j'ai pas vraiment été impressionné. Le démo du 2, c'était tu peignes des pics, puis tu montes une montagne.
Ouais.
C'est à peu près le même principe qu'ils nous ont montré. Là, t'es c'est en sous-marin, dessous. Ouais. C'est la première mission qu'on montait.
Ouais, c'est ça, on verra dans le.
Puis Battlefield 3, sérieusement, je sais pas comment l'attendre parce que ils se disent c'est pas Modern Warfare, mais dans tous les aspects, ça file Modern Warfare. Fait que je veux pas qu'ils tombent dans le piège de on va essayer de faire un Modern Warfare, mais pour Electronic Arts. Je veux pas ça parce que, pour être bien honnête, là, Call of Duty s'est rendu le NHL des shooters, pis c'est redondant. C'est redondant.
Fait que toi, ça serait Batman. Toi, les Batman autres, les shooters, tu laisses de côté.
Ouais, les shooters, j'en ai ma dose, là.
C'est correct. Toi, Jean-François?
Écoute, ta liste est tellement limitée. Il y a tellement d'autres jeux qui sortent.
Oui, ben là, je voulais en nommer 4.
OK, ben...
It's a trap!
Personnellement, le jeu de l'année que j'attends impatiemment n'est pas dans ta liste. Mais si
c'est
je
lequel, quand même?
Moi, j'attends Uncharted 3 okay. avec impatience, là.
Le pire, c'est que j'ai failli le mettre, mais... Zelda m'a bugué, là.
Mais si je me fie aux quatre choix que tu nous as mis, moi, je dirais aussi Batman à Arkham City.
Okay.
J'ai dévoré le premier assez bien, d'ailleurs. Moi, ça, j'ai été très impressionné par ça.
Ouais, c'était bon.
Puis même qu'au début, les critiques étaient un petit peu mitigées, puis on dirait qu'il n'y a pas eu le succès estompé dès le début. On dirait que c'est le bouche-à-bouche qui a fait ouais. en sorte que, OK, ouais. il est bon, OK, allez-y, essayez-le. Ah oui, c'est vrai qu'il est bon. Oui, le bouche-à-bouche, ouais, c'est vrai que... Non.
C'est pas
ça fait pas le même, ça fait pas la même sensation. Non, pas du tout. Non, mais je mettrais vraiment Batman City, là.
Ben,
Arkham City, pardon.
Moi, j'ai le goût de dire que ça va être Battlefield que j'attendrais le plus. Puis le pire, c'est que je suis pas une fan de shooter, mais la raison pourquoi j'attends Battlefield, c'est juste le concept de pouvoir détruire tous les buildings qu'il y a dans la ville. Tout ce qu'on voit, tu peux le détruire. Ça, j'ai hâte de voir à quel point que ça
j'avoue,
va être...
ça peut être comme des heures de plaisir à tout démolir. Hein?
Oui, tu sais, je veux dire, je trouve que, tu sais, Call of Duty, tu peux pas détruire des buildings. Tu peux pas dire, OK, il y a un gars là, mais ben, je vais le détruire.
Là,
c'est ça. Puis là, de pouvoir le faire au complet, j'ai hâte de voir à quel point qu'on... Tu sais, parce que là, ils disent qu'on peut tout détruire.
Ça va
j'ai hâte de voir.
On ne dira pas quel jour on a enregistré le podcast, par contre.
Non, non, comment ça?
Tu parles de destruction de destruction de building.
Non, non, on est le 11 septembre en passant.
Ouais, non, c'est ça.
Bon.
Ouais, je veux dire, je m'en ai parlé à quel point ça ressemble à Red Faction, que tu joues un terroriste qui démolit des buildings avec un gros sledgehammer. C'est mais, ça. Oh, wait.
Oui, pour le 10e anniversaire, c'est super cool.
Merci
que
Alexandra,
je parle de... oui, c'est ça.
Tout
c'est...
le monde a le goût de pleurer. C'est
ça. C'est super fun que je parle de destruction.
Mais
de
pour vrai, le moteur, excuse-moi Lynn, le moteur Frostbite 2 de Battlefield 3, il a l'air... carrément hallucinant. Là.
Ouais, c'est ça, j'ai hâte d'essayer. Fait que c'est pour ça, mais je pense, je trouve ça le fun parce qu'on a vraiment tous des goûts pas mal différents, mais on attend tous quand même ces jeux-là et Uncharted 3 pour Jean-François.
Et oui, j'ai
et Alexandra, bat. Toi, as-tu une option?
Il y a pas un nouveau Rock Band qui va sortir? Sinon...
non, ben, on le souhaite beaucoup.
Ou peut-être Rocksmith pour apprendre la guitare pour vrai.
Ça, peut-être ouais. ça. Rocksmith.
Rocksmith de Ubisoft.
Moi, beaucoup de gens m'avaient dit à quel point oui, les jeux Rock Band et compagnie, c'est amusant, mais on n'apprend pas pour vrai l'instrument, puis c'est juste taper sur des boutons synchro.
C'est ça.
C'est vrai, c'est le fun, c'est un jeu de party, mais là, d'amener ça avec un apprentissage réel, oh,
ben, je dirais celui qui te... Ben, moi, je joue du drum dans la vie, puis, mais celui qui... De jouer du drum, quand tu joues du drum dans Rock Band, je te dirais que c'est celui qui est le plus proche de vraiment apprendre parce que là, tu synchronises. C'est ça. Mais c'est pas 100%. Si tu joues débutant, regarde, c'est pas ça que tu vas apprendre à jouer du drum. Mais si vraiment tu veux jouer, oui, ça peut être une option plus que les guitares. Là, on s'entend.
Parce qu'on va s'entendre quand... La différence entre Rockman puis Guitar Hero, ça a été le fait que quand tu jouais de la guitare sur Rockman, ça faisait pas clac, 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 clac. Fait que t'entendais plus les guitares que ta tour
Rockman. Rockman a été le premier aussi à amener le principe de jouer en gang, là, de pas juste jouer à deux guitares. Là.
Ouais.
Moi, ma question, c'est à quand Harmonica Hero?
Eh bien, on
la like, c'est Guimbard.
Alors, très intelligente. On
cabane
termine,
à sucre Hero.
On termine ça là-dessus, sur ces phrases
vous
intelligentes.
Vous avez voulu me donner un micro aujourd'hui, ben c'est ça.
Bon, merci beaucoup Steve. On va fermer son micro tout de suite, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la chronique. On passe encore dans les jeux vidéo et on va parler à Jean-François.
Ladies and gentlemen, please welcome to the podcast, Jean-François.
Alors Jean-François, bonjour.
Quelle douceur dans mes oreilles,
oui,
cette présentation-là.
C'est beau, c'est chic. Moi, j'ai eu le goût de pleurer. Tu voulais nous parler des trois exclusivités PS3 qui sortent ce mois-ci.
Ben oui, parce que, tu sais, puisqu'on va avoir un automne assez occupé en termes de jeux vidéo, ben on dirait qu'ils se sont passés le mot pour sortir des vieux jeux en format HD.
Fallait qu'il
y
en rajoute.
Ben oui, tu sais, c'est pour faire du cash aussi. Mais bon, on va commencer par le plus récent qui va sortir. Ça sort le 13 septembre, donc cette semaine. C'est God of War Origins Collection qui inclut les deux jeux qui sont sortis sur la PSP, dont God of War Chains of Olympus qui est sorti en mars 2008, qui se situe entre le God of War 2 et God of War 3.
Okay.
Et Ghost of War, Ghost of Sparta, qui est sorti après God of War 3 en novembre 2010.
Okay.
Donc, selon les critiques de jeux que j'ai pu voir sur certains sites, ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur améliorer énormément les graphiques sur Chains of Olympus. Mais puisque Ghost of Sparta est plus récent, ça sort un peu mieux sur
en HD.
Là. C'est ça. Donc ça sort le 13 septembre. Je continue aussi avec un jeu que j'attends impatiemment, c'est Ico in Shadow of Colossus, pardon. Ça a été Ico. Oh, ben, j'ai pas essayé Ico. Moi, j'ai vraiment essayé Shadow of the Colossus. C'était écœurant. Ico est sorti en mars 2002 sur la PS2. C'est quand même vieux comme
ouais,
jeu. Là. Et Shadow of the Colossus en 2006. Puis, franchement, moi, j'ai vraiment ces Shadow of the Colossus qui m'accrochent énormément. Puis, je me souviens à l'époque, il y a peut-être 2-3 ans de ça, j'ai reçu un courriel de Sony qui nous a demandé des jeux qu'on aimerait avoir en HD.
Okay.
Comme quand que God of War 1 et 2 est sorti en HD, ils nous ont envoyé un courriel par la suite pour savoir quel autre jeu. Puis j'avais nommé ce jeu-là.
Okay.
Fait que je suis
ils
très
t'ont
content.
Écouté.
Ils m'ont écouté. Ben oui, hey, je suis comme, ben oui, c'est de ma faute. Désolé. Mais je suis très content qu'il ait sorti.
Sais-tu si la différence va être quand même flagrante?
À ce que j'ai vu sur Internet, c'est plus clair. Fait que okay. Tu sais, c'est moins pixelisé, mais les détails, il n'y en a pas vraiment.
Ouais,
c'est,
là.
C'est juste moins pixelisé, mais c'est quand même, ça va quand même être mieux sur une télé 40 pouces, comme,
ben
peu
oui.
importe qu'une petite 19 qu'on pouvait avoir à
c'est
l'époque.
Là.
Un jeu aussi que j'attends très impatiemment, c'est Splinter Cell Trilogy. Je vais vous faire un petit aperçu. Splinter Cell, le premier, est sorti sur la Xbox première, PS2 et PC en mars 2003.
Okay.
Splinter Cell Pandora Tomorrow est sorti en juin 2004. Splinter Cell Chaos Theory est sorti en mars 2005. Il y a eu un Splinter Cell Essentials qui est sorti sur PSP en 2006. Et Splinter Cell Double Agent est sorti en octobre 2006 aussi. Et le dernier, Conviction, qui est sorti en 2010 seulement sur la Xbox 360 et PC. Donc, le trilogie, ça, dans le fond, ça va avec les trois premiers. Les trois premiers, dont Splinter Cell, Splinter Cell Pandora Tomorrow et Splinter Cell Chaos Theory. Moi, personnellement, j'ai juste essayé Chaos Theory et j'ai adoré. Moi,
ce que j'aime le plus de Chaos Theory, c'est la trame sonore de Eamon Tobin, qui est absolument hallucinante. J'ai l'album, voilà.
Ah ouais,
le jeu, j'ai pas joué partout.
Mais tu vois, moi, Splinter Cell, le seul que j'ai joué, c'est Conviction. Fait que moi, c'est, justement, ça m'a donné le goût. J'ai adoré Conviction. Puis ça me donne vraiment le goût, justement, de retourner puis d'aller essayer les trois. Mais j'imagine, avec tous les titres qu'ils ont, c'est qu'ils vont ressortir.
C'est que Conviction est sorti juste sur Xbox 360 et PC.
Ouais.
Fait que moi, j'ai Double Agent est sorti sur la PS3. Moi, j'ai peut-être l'impression qu'ils vont peut-être sortir Conviction sur la
PS3 ouais.
en duo.
Ouais.
Ils vont faire un jeu avec les deux. Là.
Ouais, un autre bundle.
Un autre bundle, dans le fond, si d'après moi, le Splinter Cell Trilogy fonctionne
ouais,
bien.
C'est ça. D'après moi, oui.
Puis, pour ceux qui se plaignaient que Conviction était court, les trois premiers, c'est les trois plus longs.
Ah, OK.
Fait
ouais,
que,
c'est bon.
Dans le fond, moi, je dis que dans les trois jeux que je viens de nommer, God of War, Ico et Shadow of the Colossus et Splinter Cell Trilogy, au niveau du nombre d'heures qu'on peut jouer, Splinter Cell vaut la peine.
Ben oui, c'est ça. Surtout, c'est les trois plus longs.
C'est
fait
ça.
Que t'as une
couple
d'heures.
C'est facilement une dizaine d'heures chacun.
Ouais.
Là.
Ah,
tandis
bon.
Que Conviction, je pense que t'as à peine 5-6 heures
ouais,
à peu près.
Long,
là. Non, c'est ça.
Long,
c'est ça qui a calé les notes du jeu.
C'est
là.
Ça. Pourtant, il y avait du potentiel. Là. Il aurait pu aller loin avec ça. Là.
Ça. Fait que si vous êtes trop impatient pour les nouveautés, les grosses nouveautés qui vont sortir plus au mois d'octobre,
ouais.
là, à partir du mois d'octobre, je vous dirais que vous avez du choix en masse pour septembre.
Je pense que
c'est toutes des exclusivités PS3. Parce que je dirais que
que la majorité des tous les Splinter Cell sont sortis sur Xbox.
Ouais.
Donc, puis God of War, on s'entend que c'est Sony, puis Ico and Shadow of the Colossus aussi. Donc,
Fait que PS3 nous garde ce mois-ci.
Ben Sony.
Ouais, c'est ça. Sony. Merci, Sony. Alors, merci Jean-François.
Ben, c'est très gentil. Plaisir.
On est bien intéressés. Ça va nous coûter cher. Merci beaucoup. Alors, on va y aller avec Bruno.
Parlons jeux vidéo avec Bruno Carré.
Eh bien, bonjour Bruno!
Salut! Bon, troisième fois qu'on parle des jeux vidéo, hein?
Ben oui, c'est ça, mais on reste dans le thème, Qu'est-ce que t'as de bon à nous jaser, là?
Ben moi, tu sais, je veux pas vous parler des grosses exclusivités de telle console. Je veux juste essayer de faire une mini table ronde rapido sur... Et en même temps d'en parler, c'est que ça va pas bien dans le domaine des consoles portables. Dans les consoles jeux vidéo, ça va super bien. Au niveau des consoles portables, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ça va pas très bien. Je vous donne un exemple. Nintendo, en dedans de 2-3 mois, a droppé le prix de sa console de 70$. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était avec le Sega Saturn. Puis on s'entend que le Sega Saturn, c'est pas rendu loin, là, après un price drop de 70$. Donc, moi, ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que à ce niveau-là, ça va pas bien. Parce que, puis je vais être très franc avec vous, on ne drop pas une console de 70$ quand on était confiant, il y a 3 mois, qu'à 250$, ça se vend.
C'est ça.
Ils ont fait l'annonce de la PlayStation Vita qui va se vendre à 250$, puis on s'entend que ça clenche.
Ben oui, déjà en partant. Mais tu sais, en droppant, moi je me disais qu'en droppant le 3DS justement de 70$, c'est qu'ils étaient très conscients qu'en la vendant 250$, qui va être le même prix que la PS Vita, ils n'ont pas les éléments dans leur Nintendo pour accoter ça, tu sais. À moi qu'ils nous arrivent vraiment avec une console, ce qui me surprendrait beaucoup, en même temps, qui serait quelque chose d'équivalent, mais ils ne peuvent pas charger 250$.
Les consommateurs accordent énormément d'importance à la différence de prix entre deux produits pour associer une qualité. Je pense que ça a été clair pour Nintendo qu'il fallait qu'ils se mettent légèrement en dessous de façon à ce que les gens ne pensent pas qu'ils se font avoir en l'achetant. C'est une position stratégique qu'ils n'ont pas vraiment le choix de faire.
Ils ont fait quand même, tu sais, pour les gens qui ont acheté dans les 2-3 premiers mois, ils ont quand même fait, vous n'êtes pas fait fourrer de 70$, voici 20 jeux gratuits,
soyez
ambassadeurs. J'en parlerai pas, parce qu'on pourrait aller loin avec ça. Mais en ce moment, ce que je tiens dans ma main, c'est une tablette. Laurent aussi a une tablette et Alexandra aussi a une tablette. Et aussi les téléphones mobiles. En ce moment, c'est ça que je trouve les fabricants de consoles portables devraient théoriquement avoir peur de.
Ouais.
Pour la simple et bonne raison, je peux avoir des jeux de qualité. Tu sais, puis on parle de qualité genre Nintendo 3DS à aller jusqu'à PlayStation sur ma tablette. J'ai des capacités d'un écran tactile. C'est portable. J'ai déjà dépensé au-dessus de 500$ pour ma tablette, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais disons que j'ai...
Ce serait le prix, hein?
Ce serait le prix. Mettons, j'ai mis 500$ sur la table pour ma tablette, qui remplace théoriquement mon ordinateur portable en ce moment. Puis après ça, je me dis, hey, je vais aller m'acheter une autre console à 250$, avec des jeux qui me coûtent 40$ la copie. Puis après ça, là, je vais avoir une expérience de gaming, tandis que j'ai des jeux qui me coûtent même pas 10$ sur ma tablette et qui me donnent des expériences de jeux qui peuvent aller aussi loin que ça. Je peux vous donner un exemple, le jeu Xenonia, qui est sorti sur iPhone, maintenant qui est sur Android. Xenonia, c'est un RPG. Tu te promènes, tu as une aventure, une histoire. Il y a des jeux de DS qui ont de la misère à coder ça.
Ouais.
Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. C'est qu'en ce moment, tu sais, je veux dire, l'âge d'or des consoles portables est fini. C'est fini.
Ben moi, je pense, tu vois, je comprends, tu sais, que ce soit fini. Moi, je pense que la manière qu'on va pouvoir arriver à continuer à faire vivre, c'est d'amener des choses comme la PS Vita va nous apporter, de pouvoir transférer notre jeu qui est sur notre PS Vita à notre télévision automatiquement et de repartir avec notre jeu qui est sur la télévision, le transférer dans notre portable et
de partir
avec.
C'est la même chose que Nintendo tente de faire avec la Wii U.
C'est ça.
Ça va être de pouvoir dire... Ton expérience de jeu, tu la transportes avec toi, avec l'appareil mobile, tu reviens, tu es chez vous, tu continues.
Je pense que ça va être la solution, la manière, je pense.
Ouais. Puis une autre affaire que je veux juste ajouter comme petite différence, par exemple, c'est que c'est important que les consoles portables, c'est un marché qui est quand même très jeune, genre les enfants. beaucoup, oui. beaucoup d'enfants ont des DS, puis des PSP, puis des c'est eux le gros marché des consommateurs.
C'est souvent leur première console. Que,
oui, donc nous, oui, on s'achète des tablettes, puis on va jouer avec nos jeux de tablettes, c'est vrai, alors qu'avant, nous, on aurait acheté des consoles portables. Oui. Fait que je pense que les marchés des consoles portables sont en train peut-être de perdre des clients
d'une génération.
D'une génération, puis il va falloir qu'ils se concentrent sur l'autre.
Exact.
Alors qu'avant, ils pouvaient utiliser les deux.
C'est sûr, mais au niveau de... faut qu'ils révisent leur stratégie de garder des jeux exclusifs des affaires même. Tu sais, je veux dire, il y a un autre exemple. Les actionnaires de Nintendo ont urgé le président Satoru Iwata d'emmener Mario sur l'iPhone. Si c'est pas fait, sa tête risque de rouler.
Ouais, ouais, c'est fini, là.
C'est fini le fait que tu peux avoir un Mario Kart. Ben, on s'entend, cette génération-ci, ouais, ouais. Ça se peut. Mais bientôt, là, je suis pas mal sûr que la tablette que je tiens dans les mains, une Samsung Galaxy Tab ou un iPad, on puisse jouer à Mario Kart dessus en multiplayer. C'est fini le temps que, tu sais, t'as besoin absolument d'avoir une console portable pour jouer à des jeux. Je veux dire, je sors mon téléphone ou si, mettons, t'as un kid, mettons, t'as un enfant de 12 ans, puis l'enfant de 12 ans, il a été vraiment chanceux, puis il a eu un iPod Touch.
Il y a eu un beau bulletin.
Il y a eu un beau bulletin. Il y a eu un méchant beau bulletin, dois-je dire, parce qu'à 300$, le bidule, il y a eu un esprit de beau bulletin. Mais
il est en PEI.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, il peut jouer à Fruit Ninja, il peut jouer à Xenonia, il peut jouer à une multitude de jeux que tu pourrais retrouver facilement sur le 3DS.
Oui, ouais. C'est tout du casual. C'est des jeux c'est qu'on ça. Joue 5 minutes, on fait 3 tableaux, puis après ça, quoi? Les jeux de console portable, c'est des jeux profonds où on joue longtemps, on avance, on build des personnages. C'est quand même une expérience de gaming complètement différente.
C'est sûr, mais en même temps, c'est ce involvement-là qui commence à disparaître au niveau du portable parce que veux pas, une game de Fruit Ninja, je prends Fruit Ninja parce que j'adore jouer à ce jeu-là.
Oui, ma fille aussi trippe sur Fruit Ninja.
Je veux dire, je slice des fruits, j'essaie de battre mon score, puis après ça, c'est fini, je le ferme. J'ai pas besoin de me dire, oh non, je pognais un... Tu sais, je donne un exemple de Final Fantasy qui se trouve sur PSP, admettons. Je joue à Final Fantasy. Tu sais, je suis rendu super loin, j'ai ramassé un item super abus. Il n'y a pas de save point avant au moins un boss fight. Le problème, c'est qu'il faut que je ferme mon device ou faut que je le mette en sleep. Quand je vais le rallumer, je ne sais pas. Est-ce que je vais m'en rappeler? Je ne sais pas. C'est ce involvement-là fait que c'est pas nécessairement intéressant pour le marché du portable.
Mais c'est exactement ça que Sony et Nintendo veulent régler comme problème.
C'est ça.
Avec le transport du jeu de la console à l'appareil mobile. Parce c'est que clair. Ton boss, tu peux le faire rendu chez vous
exact.
Quand t'es rendu avec ta grosse console.
Ouais.
Mais non, ça c'est...
Je pense qu'il y a deux points... Excuse-moi, Bruno.
Vas-y.
Il y a deux points importants à considérer, par exemple. Là, c'est super beau, un iPad, une tablette. C'est, moi, je trouve... Jouer sur un écran de cette grosseur-là, quand même, que ce soit portatif, tu n'aurais pas pu rêver à ça il y a 10-15 ans. Là. Sauf que, si tu reviens à la base, c'est quoi les caractéristiques d'une console portable? C'est qu'elle soit portable. À moins que tu aies vraiment des grosses jeans, c'est chiant de transporter ça.
Ouais, ça ne se met pas dans un fond de pack-sac facilement.
Une DS, une 3DS qui est pliée, qui est repliée sur elle-même, qui est fermée, tu glisses ça dans ta poche en arrière, c'est
pas mal plus portable.
Ça s'amène dans l'autobus.
Par contre, faut pas en rester là. Je suis d'accord avec le fait que les consoles doivent évoluer s'ils veulent continuer à garder des clients, leur même clientèle cible. Au début, c'était beau une console avec des jeux. Bon, ben mais après ça, avec la PS3, t'as pu lire certains médias. La PSP, excuse, t'as pu lire certains médias sur ta console. Ouais. Il y avait des petites applications homebrew pour le faire sur la DS. Mais faut y aller vers le selon moi, vers des tâches supplémentaires, vers des fonctions supplémentaires, parce que c'est sûr qu'à cet endroit-là, les téléphones portables, les appareils, les tablettes vont prendre le dessus là, à quelque part. Là.
C'est clair, parce que je veux dire, pourquoi je dépenserais 250$ quand je peux avoir, mettons, un téléphone multifonction pour 250$? Ou, tu sais, pas besoin d'être un téléphone, tu sais, pour deux... On s'entend, là, 250, tu te rapproches d'un iPod Touch. Pourquoi je dépenserais 250$ pour quelque chose qui va juste jouer des jeux, puis qu'à minute que je veux faire autre chose, je suis obligé de le mettre sur le comptoir puis d'utiliser mon téléphone qui m'a coûté 250$.
Ouais, c'est ça.
Ou mon iPod Touch qui m'a coûté 250$.
Ben, je pense que...
Là, on est rendu à 500$ de dépense. Si moi, je suis un consommateur averti ou, mettons, je suis un parent qui n'a pas infini d'argent, je pense que tout le monde... est un parent qui n'a pas infini d'argent. Là. Si vous avez infini d'argent, faites-moi un chèque, s'il vous plaît.
Problème.
Non, mais ce que je veux dire, tout simplement, c'est que c'est quand même sérieux comme problème que les compagnies de consoles, on dirait qu'ils refusent d'avoir. On s'entend, la PlayStation Vita va continuer d'avoir le visionnement de vidéos, il va avoir un accès 3G. Mais qu'est-ce qui va faire plus que mon téléphone ne fera pas, que j'ai déjà dans mes poches?
Ben, il va jouer des jeux licenciés.
Il y a des interfaces tactiles,
oui,
des
c'est
boutons.
Ça que
hein.
Je pensais, ouais. Le côté top,
jeux,
c'est génial.
Les jeux qui vont devenir disponibles sur la PlayStation Vita, ça sera justement pas, ben, peut-être oui à l'avenir, mais ça sera pas des Angry Birds, ça sera pas des jeux vraiment casual, sauf que tu risques d'avoir des licences qui sont déjà connues, qui ont déjà une bonne réputation, une bonne valeur de vente, qui vont arriver sur la console.
Puis moi, je pense que ça va être ça la solution pour qu'ils gardent les consoles en vie, c'est d'arriver soit avec des jeux exclusifs à la PS Vita, exclusif à la Nintendo 3DS ou X autre qui va sortir, et avoir des jeux exclusifs. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a moyen que aussi, les deux soient viables aussi, là, je pense. Là.
Mais le dernier point que je vais apporter, c'est aussi au niveau des développeurs, parce qu'on va penser au niveau ceux qui font les jeux, parce que là, on parle des consommateurs depuis tantôt, mais ceux qui font les jeux, là, je m'excuse, le monde de Rovio, combien vous pensez qu'ils ont investi d'argent?
Non, mais ça, c'est des success stories. C'est pas une tendance.
Non, non!
Tu peux pas prendre ça comme exemple.
Non, je peux pas prendre ça comme exemple. Mais
n'importe quel... C'est comme Notch avec son jeu Minecraft, là. C'est un hasard. Là. Il a pogné une bonne recette. Ça a bien marché.
C'est clair, mais...
Il est millionnaire. Mais on peut pas se baser là-dessus pour toutes les...
L'implication d'un titre triple A pour un mobile, admettons. Tu sais, je parle de n'importe quoi. Justement, les God of War sur PSP, ça a coûté des millions à produire. Est-ce que ça a nécessairement rapporté des millions? Je pense pas. Peut-être sur la long run, oui. Mais tu sais, je veux dire, pour un développeur qui commence, tu sais, je donne un exemple. Si, mettons, moi, je me monte une équipe de 3 personnes, puis je veux lancer un jeu, mais je veux pas, tu sais, je veux pas investir des millions de dollars pour rentrer en compétition, puis justement avoir une chance de m'en sortir. C'est ça le problème, je trouve, c'est que en ce moment, si tu veux vraiment vendre des jeux sur, tu sais, on s'entend, le shovelware sur DS reste sur les tablettes. Il y a juste il y a pas tant de ventes qui se fait.
Non,
fait
c'est
que, si mettons, moi, je suis un petit développeur, je veux commencer, je vais aller vers le mobile avant d'aller vers les consoles portables.
C'est beaucoup plus ouvert. Ils sont beaucoup plus ouverts à ça.
Le price point, on s'entend, c'est pas 79$. Ben, 79 ou 49$. Je peux vendre mon application 99 cents, puis sûr, je vais me faire de l'argent là-dessus. Versus, je pourrais produire un jeu, ça m'a coûté des millions de dollars, puis finalement, mes ventes sont pas bonnes, puis je suis obligé de caler banqueroute. Je veux dire, pour le développeur, c'est autrement plus intéressant d'aller vers le mobile. Fait que, d'après moi, ils vont perdre des plumes sur les third parties, parce qu'on s'entend, Nintendo et Sony vont supporter leur console à la vie ou à la mort. Mais si, mettons, tu vas vers, je donne un bel exemple, à la Nintendo Wii ou pas à la Nintendo Wii, mais mettons, moi, je m'appelle Joe Blow. J'ai mon studio de 20 personnes. Puis
Salut Joe.
Salut Joe. Que je suis obligé d'investir comme des millions de dollars pour faire un jeu. Puis finalement, ça me retourne juste 200 000. Jusqu'à je vais être obligé de caler banqueroute.
Ouais, mais je pense. Tu sais, mais c'est un super bon point que tu apportes. Moi, je pense pas que c'est mort, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il revienne à une stratégie. Là, qu'il faut qu'il se refasse une stratégie pour revenir aussi fort qu'il était. Là.
C'est ça. Parce que s'ils continuent sa trend qu'ils ont, la prochaine génération, ça se vendra pas parce que le monde va tout. Parce qu'on s'entend, là, tout le monde va finir par avoir minimalement un téléphone.
Ça va être la base.
Faut qu'ils entretiennent leur marché, ils n'ont pas le choix.
C'est ça.
Ben, merci beaucoup, Bruno. C'était super intéressant. J'adore ça. Et maintenant, ben, on va passer à Steve avec les gadgets.
C'est la chronique de Steve.
Steve Desguerry.
Ah, ça, c'est un beau jingle intelligent. C'est magnifique.
Merci.
Alors, Steve...
D'ailleurs, le producteur du jingle attend toujours son chèque.
Oui, bon, ben, on s'en reparlera. Steve, tu avais quelques gadgets pour la maison à nous proposer. Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Pas vraiment, Lynn.
On s'est mal parlé à la maison.
On va s'en reparler tout à l'heure.
On va s'en reparler dans le char.
Non, en fait, ce que je veux amener, c'est que... Premièrement, je veux faire déprimer le monde à partir de maintenant.
Okay.
L'été est fini.
Oh.
Hey, ça fait plaisir tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est le magasinage de Noël.
Oh. Yeah!
Fait que voilà, essayons de se prendre d'avance cette année puis pas attendre au 24. D'ailleurs, je fais pas de podcast le 24, fait que fiez-vous pas sur moi. pour le magasinage,
t'es pensé à nous?
Un petit peu geek.
Ah yeah! Ah.
Et, Non, je vous fais pas de cadeau.
Oh.
Parce que je veux m'en faire un beau.
OK, c'est correct. Ça passe.
J'ai trouvé deux, trois petites sources pour magasiner online.
Okay.
En ligne, pardon. Ma première source pour trouver des cadeaux geeks, en fait, des cadeaux qui pourraient intéresser les geeks, ou même les gens dans votre famille qui savent pas qu'ils aiment les gadgets, mais qui pourraient le découvrir avec un petit cadeau.
Mais moi, je trouve que c'est ça, même des cadeaux d'échange, ou tu sais, c'est des cadeaux originaux, le fun. Je trouve qu'il y a plein de choses sur ce site-là.
Qui sont généralement difficiles à trouver en magasin, à moins que tu trouves une boutique spécialisée. Ouais. Donc, c'est vraiment des belles sources pour trouver des cadeaux originaux. Justement, ils ne sont pas disponibles en magasin.
T'as des exemples?
Pardon?
T'as des exemples?
Oui, j'en ai quelques-uns. Mais en fait, je vais commencer avec le premier site. C'est Worldwide Fred. C'est la compagnie Fred and Friends qui fait des gadgets incroyables. Des gadgets qui se trouvent, qui peuvent servir autant à la maison, au bureau, aux toilettes. Vraiment un peu partout. Mais je dis ça en joke aux toilettes, mais il y a sûrement vrai. Des gadgets
c'est
ça, pour
sûrement,
ça.
C'est ça.
C'est une compagnie.
On sait ce qu'ils font aux toilettes.
Ouais, eux ne designent pas vraiment, mais ils font affaire avec plusieurs designers. Ça va de tout, là, de vos étuis à iPhone, une boîte d'attache trombone, vraiment d'attache papier de trombone. Oh, maman, viens me chercher. Colin. J'ai chaud.
Une boîte d'attache trombone.
Pour mettre les trombones ensemble, ben vous avez c'est le trombonateur.
Mais prenez du scotch, ça marche super.
Dans une boîte, c'est génial.
Alors attends, Jean-François,
non, j'ai un truc, si micro. Tu veux que toutes tes trombones soient pognées ensemble, la meilleure façon, c'est de n'avoir besoin d'un.
Oui, ça c'est vrai. Quand t'en veux juste un,
c'est ça.
T'as les trombones puis le tiroir qui viennent avec. Ok, bon.
Je suis tellement laid quand je rentre plus.
Il y a Jean-François qui rit comme une matante, c'est merveilleux. Ok.
Mon gadget préféré de chez Fred's and Friends, Worldwide Fred, ton site, c'est le coquille de téléphone, je pense que c'est pour iPhone, qui est en fait la forme d'une vieille cassette des années 80.
Ouais.
Fait que pour le vieux comme moi qui rembobinait ses cassettes avec un crayon pour mettre dans son Walkman. Là.
Si tu regardes, il y a un case à cassette, si tu veux, un étui à cassette qui vient avec, puis ça te sert de trépied pour téléphone. Ben, pas de trépied, mais d'un petit stand pour ton téléphone. Si tu veux écouter une vidéo sur ton téléphone
cute.
Au lieu de le tenir dans tes mains,
c'est vraiment nice.
Tu le laisses sur ta table. L'idée est vraiment bonne. Il y a plusieurs gadgets comme ça.
Puis là, il y a du monde qui te voit parler dans une cassette puis qui comprennent absolument
pas. Ouais, c'est ça.
Ils font comme, c'est échappé de l'hôpital. Là. Mais il y a aussi un autre truc. Dans la même catégorie où tu étais, justement, Laurent, c'est dans le tech. Il y a des haut-parleurs pour ordinateur, pour laptop, mais en fait, qui sont forme de...
Des écouteurs
d'iPod géants.
Hey, c'est excellent!
Ils sont vraiment géniaux, là. Écoutez, le site est rempli de gadgets à propos desquels, c'est-à-dire vous vous demandez comment ils ont pensé à ça. Là. C'est vraiment incroyable. Il y en a autant pour la cuisine, comme je dis, là, ceux qui aiment faire de la cuisine, qui aiment avoir des accessoires
des salières, des poivrières, bien originales.
Oui, c'est vraiment
est-ce que c'est un site canadien ou américain?
En fait, non, c'est américain.
Je viens de trouver ce que je veux. Des emporte-pièces pour faire des biscuits en forme de
kung-fu.
De kung-fu.
Des coups de karaté. Mais regardez, c'est vraiment intéressant. On va mettre une couple d'exemples justement sur le site pour
vous montrer. Premièrement, le lien.
Parce le petit bonhomme en pain d'épices qui vous casse la gueule.
Oui.
Les frais de port, ça ressemble à quoi, t'as regardé?
Pardon?
Les frais de port.
Pour vrai, je me suis pas informé. Je pense qu'ils shippent gratuitement partout à travers le monde.
Bon.
Non, c'est pas vrai.
Ça vient par la poste et ça prend 3 semaines.
C'est ça, mais la bonne façon de s'informer, Alexandra, le lien de Fred and Friends va être sur le site, sur la page du podcast de Geekbécois. Vous allez là, puis vous pouvez classer les gadgets par catégorie. C'est vraiment un catalogue complet en ligne. Puis, je pense qu'il y a aussi qu'il y a moyen d'avoir un catalogue en version papier que vous pouvez vous commander.
Puis d'ailleurs, on avait trouvé, tu disais tantôt que c'était dur de trouver des places où il y en avait des produits Fred's, mais on en a trouvé quand on a été chez
Indigo.
Indigo. Ouais, il y en a des fois, il y a une petite section de Bebel, puis il y avait des produits Fred's. On est resté surpris en magasinage, justement, on est tombé là-dessus, puis il y en avait quelques-uns. C'était pas plein, mais chez Indigo, on en a vu quelques-uns. Fait que peut-être qu'il y a des places comme ça.
J'en ai déjà vu chez Renaud-Bré aussi.
Ah, chez Renaud-Bré.
Ben, sur le site de Fred's, il y a...
les détaillants autorisés.
Oui, c'est ça. Donc, pour le Québec, il y a Cadeau 4 saisons, Mac Urbain, Caractère, plein de petites boutiques qui tiennent les articles, justement, de Fred's.
Moi, je suis content que Laurent soit avec nous parce qu'il y a beaucoup plus de détails que moi. Est-ce que je suis arrivé et puis j'ai trouvé mon idée pour la chronique dans l'auto? Je ne sais pas.
Ah, ça se peut.
Mais pour vrai, ça fait longtemps que je veux le partager. J'ai déjà voulu écrire un article là-dessus, mais j'avais peur que ça ne soit pas assez complet. Fait que je vais vous laisser à vous
l'occasion
de le découvrir.
Oui, c'est ça.
Si vous aimez fouiller, écoutez, il y a vraiment du gadget en masse.
Et puis, y avait-il un autre site que
oui,
tu voulais nous parler?
Site, ben, que c'est officiel que vous le connaissez. Sinon, mon Dieu, garochez-vous dessus. C'est thinkgeek.com.
La référence.
Bon, j'en prends ça par connaissance. Mais,
je pense
vrai,
que pour Geekbécois, tout au moins la gang de Geekbécois, on connaît thinkgeek.com. Écoutez,
c'est la meilleure source de flux capaciteur pour la DeLorean. Oh, oui. C'est vraiment, ils ont les meilleurs prix.
La meilleure garantie.
C'est vraiment incroyable. Il y a de tout. Pour tous, ok. Que vous soyez orienté jeux vidéo ou vous aimez plus les films, la télévision, tout ce qui est série un petit peu geek underground. Écoutez, il y a de tout. Regarde, la première chose que je vois, c'est un pic de Minecraft. Ok, sur la page couverture, c'est incroyable. Il y a un Companion Cube de Portal aussi qui est en fait un toutou. Mais il y a vraiment de tout. Autant dans les jeux vidéo, la musique. Il y a des t-shirts surtout pour hommes, pour femmes. Écoutez, c'est un autre site à découvrir. Allez vous promener dessus.
Puis je pense que tu avais trouvé aussi une espèce de petit Mario Kart.
Ah oui, merci.
Mais c'est là-dessus, c'était version gros, là,
ouais,
en grosse version.
Ouais, je vais y aller dans l'ordre. En allant magasiner chez Walmart pour des couches, j'ai trouvé une boîte qui était vraiment très attirante. Je vais vous mettre les photos sur le site de Geekbécois. C'est une version radio-commandée de Mario Kart. En gros, dans la boîte, il y a deux voitures. Il y a une voiture de un kart de Mario, un kart de Yoshi. Et puis, c'est vraiment miniature. Là, quand je vous dis que la voiture fait à peu près 1,5 pouce, 2 pouces de long. Puis, ça vient avec des morceaux de circuit. Vous pouvez créer votre propre circuit avec des cônes, des barrières, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que la télécommande de Mario et la télécommande de Yoshi ont des emplacements pour des attaques, un peu comme dans Mario Kart. Donc,
mettre des power-up, là, un peu. Là.
Oui, exactement, le power-up. Merci, Lynn. À chaque tour que vous effectuez, chaque fois que vous passez la barrière, il y a un sensor sur la barrière et sur la voiture qui envoie un signal à la télécommande. Ça choisit aléatoirement une attaque. Donc, comme dans Mario Kart, une pleure de banane, une carapace ou quoi que ce soit. Ce qui fait que si vous êtes bien aligné sur la voiture... Sur la voiture adversaire, vous pouvez l'attaquer puis lui faire perdre le contrôle un peu, le ralentir.
Ah, c'est bon.
Pour gagner.
Est-ce que tu l'as essayé en vrai?
Je ne l'ai pas essayé en vrai.
Même
car,
pas chez Walmart?
Mon budget est limité. Ben, j'ai pensé le voler et puis une certaine Lynn m'a retenu.
C'est qui ça?
On mais, parle de combien?
C'est chez Walmart, ils le vendent à 60$. Quelqu'un qui veut faire un petit cadeau, là, oui. Justement, là, un petit cadeau pour les fêtes ou pour ma fête qui s'en vient, ça peut être le fun. Je ne l'ai pas essayé, mais mon petit doigt me dit que je vais très bientôt l'essayer. Ça a l'air quand même drôle.
Ça a l'air vraiment rigolo.
Et puis, c'est ça. Et sur ThinkGeek...
Ceux que Laurent, parce que Laurent nous montrait une image, celui-là, ça a l'air d'être celui qui est sur ThinkGeek, par exemple, pour mettre une vidéo.
C'est gros, quand même.
Oui, bien ça, c'est la version sur ThinkGeek, c'est pas la même version.
C'est ça. Sur ThinkGeek, il y a une version plus grosse, le véhicule à peu près à l'échelle, la grosseur de votre soulier, si vous avez des grands pieds. Et puis, il se vend pour 119$, si je ne me trompe pas, Laurent, oui. Tu regardais ça tantôt. Puis, je crois que vous avez le choix entre Mario, Yoshi et Luigi.
OK.
Sur le site de.
Est-ce qu'il y a le même concept des power-up ou non?
Non,
c'est vraiment des voitures.
C'est simplement un kart, mais probablement en fait, je dis ça, mais ils vendent peut-être des accessoires.
Ouais.
Mais la télécommande est pas mal plus complète. Ça ressemble pas mal plus à une télécommande de voiture téléguidée en forme de pistolet avec
le petit volant.
Avec la roulette, c'est ça, avec le volant. Puis, tandis que l'autre, c'est vraiment un bouton avant-recul, gauche-droite. Là. Mais il a l'air vraiment intéressant. La finition est pas mal plus belle dessus. C'est un beau jouet.
Oui, c'est quasiment un article de collection, là, tant qu'à ça.
Oui, mais je jouerais avec.
Oui, je sais. Toi, tu jouerais avec.
Bon, je jouerais avec n'importe quoi, tant qu'à ça. Fait que, en gros, c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment vous pousser à faire du magasinage compulsif en prévision des fêtes.
T'es gentil.
Vous pourrez pas dire que vous serez pas préparé. On est au mois de septembre. Il vous reste en masse de temps. Alors, c'est facile pour votre magasinage. Vous allez être préparé. Pour les adresses des sites dont j'ai parlé, allez sur la section podcast du site de Geekbécois et puis toutes les adresses vont être...
Tous les détails.
Merci beaucoup, Steve.
Ça fait plaisir.
C'est très gentil.
Je m'excuse.
Maintenant, on va passer... oui, il parle. Alors, allons-y avec la chronique d'Alexandra. On parle de cinéma.
La chronique cinéma et télévision vous est présentée par Alexandra Gervais.
Alexandra? Bonjour, oui. Ça va bien?
Oui, très bien.
Tu voulais nous parler d'un film à venir, je crois bien.
Oui, en fait, avec la saga Harry Potter qui est terminée,
oui.
Tout le monde se demande quelle va être la franchise qui va pogner, quelle va être la suite après
qui va prendre
ça,
sa
qu'est-ce,
place.
Qu'est-ce qui va prendre sa place. Et beaucoup de gens pensent que ça va être Hunger Games.
Okay.
Hunger Games, c'est aussi une adaptation d'une trilogie qui a été écrite par Susan Collins. Et la sortie, c'est prévu en mars 2012 pour le film. Mais on remarque que c'est déjà un très, très gros buzz sur Internet.
Okay.
Ils viennent de sortir la bande-annonce le 29 août dernier, là, puis c'était déjà le gros truc. Et au Video Music Awards, MTV Video Music Awards, ils ont mis un extrait, tout ça. Donc, c'était vraiment le gros truc, surtout chez les adolescents,
ouais,
on va dire.
Ça.
Ça commence vraiment comme Harry Potter chez enfants, adolescents. J'ai été fouillée un petit peu sur YouTube et j'ai remarqué qu'une bande-annonce faite par un fan a eu plus de 2 millions de downloads.
Hey boy,
c'est assez énorme, quoi. Donc, je vais vous parler un petit peu du livre que j'ai lu, en gros, hier en 5 heures.
Ok.
Wow, c'était intensif, ça.
Intensif, mais c'était vraiment bon, quoi. C'est vraiment un livre d'action. On n'a pas envie de poser le livre, là. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, ça... Ça s'enchaîne, ça roule beaucoup. Donc ça s'appelle Hunger Games. C'est pas du tout un livre sur l'anorexie ou
non,
la boulimie, du tout.
C'est pas un jeu d'anorexie.
C'est pas du tout pour ça. En fait, l'histoire, ça se passe dans une Amérique futuriste où qui est devenue vraiment une société totalitaire, un petit peu à la 1984 de Orwell. C'est le Capitole qui dirige. L'Amérique du Nord et l'Amérique qui est divisée en 12 districts.
Okay.
Dans les 12 districts, en gros, tout le monde meurt de faim, tout le monde doit chasser pour avoir
pour manger,
de quoi manger, tout ça, pas d'argent, rien du tout. Et le gouvernement, pour montrer son autorité sur chaque district, décide d'organiser une sorte de Jeux Olympiques, mais c'est des Jeux Olympiques un peu de la mort.
Okay.
C'est-à-dire qu'ils vont prendre deux élus par district, des enfants de 12 à 18 ans qu'ils vont faire jouer jusqu'à la mort. C'est-à-dire que celui qui gagne, c'est le survivant.
Ok.
Wow.
Chose de fun.
Donc oui, c'est pas mal le fun. Donc ça se passe tous les ans. Et nous, en fait, on suit l'aventure d'une des filles qui s'appelle Katniss, qui a 16 ans et qui est vraiment une chasseuse, une aventurière et tout. Et puis, on suit vraiment l'aventure à travers elle.
Donc, elle a fait partie de ceux qui doivent se battre.
En fait, c'est sa petite sœur de 12 ans qui a été élue.
Oh,
elle
okay.
a décidé qu'elle ne serait pas sa petite sœur de 12 ans, donc elle a pris la place
okay.
wow.
de sa sœur. Et puis, voilà, donc, trouver de l'eau, trouver à manger, tuer les autres, parce qu'elle a tué des animaux, mais au départ, elle ne sait pas si elle serait capable de tuer un adversaire, sachant que c'est quand même un jeu, c'est une télé-réalité.
Aïe.
Donc, tout le monde est filmé. Ils ont des sensors à travers la peau pour les suivre partout. Les gens, le public commandite. Ils leur envoient vraiment des cadeaux, tout ça. C'est vraiment le loft dans lequel il faut voter,
ça.
Tout ça. Et mais sauf que c'est la vie ou la mort d'enfant, quoi.
My
Donc,
God.
C'est...
Tu vois, moi, j'ai...
Hey, j'espère que ça va sortir dans le temps des fêtes. Ça a l'air le fun.
Ça sort en mars. Et,
en mars, ouais, OK. Ça... Mais tu vois, c'est, moi, je vais me faire lancer des pierres, mais j'ai pas été fan du tout d'Harry Potter. Et ça, c'est quelque chose que déjà, je trouve encore qui vient
chercher. C'est plus glauque, là.
Oui, c'est ça. C'est,
vraiment, c'est beaucoup plus noir.
C'est autre chose, là.
C'est très, très noir.
C'est comparable, peut-être, pour le côté addictif, qu'on va devenir addictif à ce genre de film-là. Mais ça m'intéresse beaucoup, déjà. Puis là, toi, t'as lu le livre, c'était le
j'ai
premier.
J'ai lu le premier, là, j'ai pris le deuxième, je vais le commencer.
Donne-toi
le temps de lire les trois.
Donne-toi un break entre les deux, tu vas tomber en dépression aussi.
Un peu trop intense.
Non, c'est un mélange, en fait, de 1984 et Gladiateur.
OK.
Et puis, c'est vraiment intéressant. Oh. Honnêtement, ça s'enchaîne super vite. Là.
Est-ce que tu sais les acteurs qui vont être dedans?
Je sais juste le rôle principal. Honnêtement, je n'ai pas noté les autres, c'est surtout ça. C'est Jennifer Lawrence. C'est celle qui jouait Mystique dans X-Men First Class.
OK.
Celle qui était toute bleue, là.
Oui,
on la reconnaît moins bien, mais...
Elle était moins bleue, là.
C'est ça. Mais, c'est ça. Mais donc, je voulais en parler parce qu'on va vraiment en entendre parler dans les mois qui viennent, là. Ça va être énorme.
C'est au mois de mars. On attend ça avec grand plaisir.
Ouais, c'est
merci, Alexandra. Ça a l'air très intéressant. J'ai déjà hâte de voir ça.
On va faire des cauchemars, hein.
Bon.
Bon.
Pas des beaux dodos. Merci, Alex. Alors, on va terminer ce merveilleux podcast-là, incroyable, et on ne peut plus.
Fantastique.
Et oui, ça va vite, hein, quand on a du fun. Alors, on va y aller avec nos oranges, nos citrons. Je vous l'ai expliqué le mois passé, mais je vais quand même vous le réexpliquer. Nos oranges, nos citrons, ça se trouve à être nos tops et nos flops du mois. Donc, ça peut être sur n'importe quel thème. On reste dans le domaine de la technologie, mais même encore, on peut aller dans le domaine de la musique où on se laisse aller sur ce qui nous a soit fait rager ou nous a fait triper. Donc, vous comprenez le concept. Je ne l'expliquerai pas 30 fois pour...
Peux-tu juste me leur dire? J'écoutais pas.
On s'en parlera dans le champ.
OK, j'écouterai le podcast.
Citron et une citrange?
Hein? Bon, ça va bien. Alors, on va y aller avec les oranges et les citrons de qui veut commencer?
Ben, je peux commencer avec un citron majeur.
OK, ben, commence. Fait qu'on y va pour ton citron.
En ce beau mois de septembre, disons la semaine prochaine, on va avoir le fantastique Comic-Con de Montréal.
Quoi ça?
Malheureusement, le bloc de Geekbécois s'est fait refuser l'entrée.
On n'est sûrement pas les seuls. Hein.
Et on n'est pas les seuls parce que, je veux dire, Télétoon, qui est un de leurs gros sponsors, s'est fait refuser leur passe. Et quoi de pire ajouter, le plus gros bloc de Lord of the Rings. T'sais, des trippers de Lord of the Rings, c'est comme... Eux autres sont finis rares.
Qui devraient avoir leur place, là, on s'entend.
Qui devraient avoir leur place, se sont fait refuser. Pourquoi? On avait 350 demandes. Quand t'es un événement qui attire plusieurs milliers de personnes, faut que tu gères ce genre d'affaires-là au niveau du PR. Je veux dire, c'est la première fois qu'un événement, puis je veux dire, nous autres, ils nous ont même pas donné le 305, tu sais, le chiffre magique de dire « ça ne nous tente pas ». Ils nous ont juste dit « vous passez pas cette année, point ». On n'a eu aucune explication, c'est vraiment au niveau PR, au niveau de comment on gère les affaires. C'est plate, là.
Ça, c'est vraiment mal refaire. C'est faire vraiment une mauvaise recherche de clientèle cible.
Ça, c'est un méga gros citron qui nous fait mal en dedans.
C'est un pamplemouche!
Enfin, on va espérer que l'année prochaine...
Parce que New York Comic Con est favorable à notre entrée.
Qui est le plus gros, là.
C'est San Diego le plus gros.
Ouais.
Est-ce que, Bruno, tu as une orange?
Une orange? Mon orange, je veux pas faire mon vendu parce que je pense que je suis pas mal labellé Samsung, mais mon orange, c'est le fait que j'ai reçu ma tablette de Samsung, la Galaxy Tab 10.1. Puis dans les deux semaines que je l'ai eu, je pense que Laurent il peut embarquer avec moi là-dessus. C'est vraiment, le iPad, là, c'est un jouet à côté. Là. Moi, c'est le feeling que j'ai.
Ouais, comme j'en ai parlé sur mon billet, j'allais presque à reculons utiliser une tablette qui n'était pas une de Apple, puis finalement... excellente découverte, c'est vraiment un produit très 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 bien fait.
C'est une orange qui shine.
Donc oui. Oh,
tu trouves
et qu'on la coupe dans Fruit Ninja.
C'est-tu plus complet que l'iPad, question professionnelle si tu veux?
Oui, de loin.
Plus flexible.
Magnifique, merci beaucoup pour ton orange Bruno. On va continuer avec Jean-François. Jean-François, ton citron?
Mon citron, je l'accorde aux nouveaux écouteurs sans fil de Sony pour la PS3.
Oh.
Parce que c'est juste à cause du prix. Ils sont 100$. Hein.
Ils sont
gros, OK. Ils doivent être confortables, ça, certes. Mais 100$, lorsque la console vaut 350 maintenant, même 250 certains modèles, et que les jeux se vendent moins que 100$, les écouteurs, ça s'en vient cher un petit peu, là.
Oui, c'est sûr. Mais ils sont beaux.
Oui, ils sont beaux. Ils sont sûrement confortables. Ouais, je ne les ai pas essayés.
Je vais attendre qu'ils descendent de prix.
Mais en
semble,
espérant qu'ils descendent de prix. Là.
150$, tu peux t'acheter un cinéma maison. OK, le cinéma maison, il est poche. Mais tu peux t'acheter un cinéma maison pour 150$. Ouais, là, je veux dire, quand tu es rendu une paire d'écouteurs pour une console qui marche juste avec la console pour 100$.
C'est un headset complet avec micro Bluetooth. Là. C'est pas juste une paire d'écouteurs.
Pas grave.
Ouais, un cinéma maison, c'est pas pratique pour parler.
Ouais, mais 100$ lorsque ça sert juste à la PS3, c'est cher.
Non,
ouais,
ça c'est pas.
C'est beaucoup d'argent pour un accessoire.
C'est ça.
Et ton orange?
Mon orange, je l'accorde à nul autre que notre cher Steve Desguerry national.
Oh!
Ouais!
Et oui, parce que avec les beaux thèmes musicaux qu'il a créés pour nous,
oui, c'est vraiment très, très bien.
Très bien fait. On te remercie beaucoup énormément
de merci, toute l'équipe. Steve.
Thumbs up!
Steve!
Ça fait plaisir. Avoir su, je me serais forcé.
Bon, mais tu nous refais tout ça pour le prochain?
Non.
OK.
On y va avec...
Merci Jean-François, t'es fin.
Ah, Steve.
OK, bon, je vais commencer avec le downer. On va y aller avec le citron. Mon citron s'adresse J'ai tout le temps de quoi à chialer contre les compagnies. La dernière fois, c'était contre les compagnies d'électronique et de télévision.
De ta télévision, ouais.
On aime mais ça. Là, là, je vais chialer. Les jeux vidéo. Je m'achète un jeu vidéo, je vais aller jouer en multiplayer. Là, c'est rendu le gros trend des passes online pour pouvoir aller jouer en multijoueur sur Internet. Là.
Ouais.
On a acheté Dirt 3 récemment. Puis je suis content de l'avoir. J'ai voulu l'acheter flambant neuf. Parce que, imaginez-vous donc, en l'achetant usagé, ça va vous prendre un achat d'une passe VIP pour être capable d'aller jouer en multijoueur sur Internet. Ça a l'air d'être une nouvelle tendance et je vous confirme que ça me tape énormément sur les nerfs. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup recycler les jeux, c'est-à-dire acheter des jeux préjoués. Je trouvais que ça avait du bon sens. Puis avec les autres jeux préjoués qu'on achetait, on pouvait aller jouer
il y avait pas de problème,
en ouais, multiplayer sans problème, c'est ça. Tandis que là, si je m'étais acheté Dirt 3 justement en préjoué, premièrement, le prix n'avait pas baissé énormément, ça valait plus ou moins la peine. Mais il aurait fallu que je paye un 19,95 supplémentaire pour être capable, pour avoir un numéro de code, pour être capable d'aller jouer sur Internet. Et ça leur revient en face à Codemasters, qui sont les créateurs de Dirt, parce qu'il y a eu du hacking de code
ouais.
récemment. Fait qu'il y a un paquet de codes, un paquet de générateurs de codes qui sont sortis. Je veux pas trop donner de détails là-dessus. Mais on va essayer de pas se faire
poursuivre. Dans le fond, ça serait bien plus simple pour eux de garder un code ouvert, là, que tu achètes le jeu préjoué, que tu peux jouer avec, que de se faire hacker des codes, parce que d'un sens, ils
selon
avoir.
Moi, oui, parce que on en parle beaucoup. Nous, chez nous, on joue beaucoup à NHL, mettons.
Ouais.
OK, les autres années, on n'avait pas de problème avec NHL. On allait jouer en ligne. Tu achetais le jeu, tu jouais en ligne. Si tu l'achetais usagé, tu pouvais aller jouer en ligne. Maintenant, c'est plus comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être une nouvelle tendance, puis
mais
je veux pas trop développer là-dessus. Là.
Juste mettre mon petit grain de sel là-dedans. Tu sais pourquoi ils font les online pass? Il y a une raison en arrière de ça. C'est bien, bien plate, mais c'est une manière des fabricants de jeux comme Electronic Arts, tout ça, de couvrir les pertes qui en courent. Parce que tu achètes un jeu usagé, OK?
C'est sûr, ça fait une vente neuve de moins.
Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que la vente usagée ne revient pas dans les poches d'Electronic Arts. La 45$ qui est rechargée, il n'y a aucune redevance qui est partie aux développeurs et tout ça. Ça va directement dans les poches de GameStop. Puis en ce moment, c'est ça leur mode de vente. Ils vendent le moins de jeux neufs possible, puis ils vendent le maximum de copies pré-jouées.
Pré-usagé.
Ça, malheureusement, c'est un problème. Puis eux autres, c'est ça leur solution. C'est plate, mais c'est ça.
C'est sûr.
D'un point de vue économique, à la base, c'est que du coût complet qu'un jeu de cette catégorie-là coûte, s'il fallait qu'il soit entièrement assumé par les premiers acheteurs, le prix continuerait de monter.
Ouais.
C'est sûr.
Et là, pour empêcher l'augmentation continue du prix d'achat initial, il y a un lot de revente qui est fait pour essayer de récupérer la portion online et contenu téléchargeable après par les acheteurs tiers.
Ouais.
On est d'accord, on n'est pas d'accord.
Ouais,
ça,
c'est sûr.
C'est chacun pour soi, mais les entreprises de jeux ne sont malheureusement pas là pour faire des jeux à perte. Ils doivent les faire à profit. Puis c'est une des mécaniques qu'ils utilisent pour faire du profit puis engager des talents pour continuer de faire des jeux.
Mais
ils peuvent pas poursuivre GameStop pour dire tu vends mes jeux usagés. Ça s'est fait depuis tout le temps, mais c'est juste, d'une manière, ils n'ont pas le choix de faire ça parce que le monde qui achète les jeux usagés, ça ne fait pas d'argent pour la compagnie, puis après ça, ils sont obligés de monter les prix. Déjà qu'on est rendu à pas loin de 70$ le jeu.
Ouais, c'est ça.
Slacker, s'il vous plaît, là, ça me tente pas de payer 100$ le jeu.
Fait qu'en gros, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer ça? Non, c'est une tendance qui va sûrement continuer à progresser. Tout le monde va en avoir. On n'a pas fini d'en entendre parler.
Non,
ça, c'est sûr. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça? Non. Est-ce que je suis capable de dire que ça m'écœure et que j'avais l'intention de faire un citron de 15 secondes avec ça? Oui.
Allons-y.
Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps parce que les marchés n'ont pas le choix de s'adapter à ce que les consommateurs sont prêts à acheter, à payer. Donc, on va voir.
Au fur et à mesure, c'est un peu extrême. 5$, ça serait moins chiant.
C'est sûr. C'est sûr, mais il n'y aura jamais, de toute façon, un boycott assez gros pour dire
c'est
que... En tout cas, c'est ça. Alors, fait que ça, c'était mon petit citron.
Oui, c'est ça. Allons-y avec ta petite orange.
Voici mon orange. Alors, mon orange va à une personne en particulier à qui je parle depuis cet été sur Twitter. C'est Luc Desormeaux, anciennement Scalazormeaux sur Twitter. Vous l'avez probablement croisé sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en général.
Ou les podcasts.
pardon?
Ou les podcasts.
Ou les podcasts, parce que Luc a son propre podcast qui est CJUAP, c'est juste un autre podcast. Luc a son blog aussi. Et puis, je l'ai rencontré cet été, je ne fais pas une biographie, mais je l'ai rencontré cet été dans un événement auquel j'ai participé pour Ford. Et puis, Luc a fait une levée de fonds récemment pour Leucan, pour ramasser des fonds pour Leucan. Et puis, c'est un projet qui a commencé comme ça sur un coup de tête. Et puis, tranquillement, ça a fait boule de neige. Puis, il y a eu quelques difficultés au début du projet. Puis, il était tenté d'abandonner. Puis, finalement, il s'est fait parler dans le casque. Puis, il a continué. Puis, pour un petit projet indépendant comme ça, il a réussi à ramasser 715 $.
Et ce qu'il offrait, c'était quand même pas rien là, à la fin.
Non, mais c'est ça. Tout au long de son projet, il s'est fait offrir des prix à faire tirer pour les donateurs. Donc, déjà là, il y avait déjà un petit gain, le fun pour ceux qui donnaient, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné.
Des prix indépendants.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné sans espérer de prix en retour. Là. Luc a terminé sa levée de fonds hier, puis c'est ça, il y a eu un total de 715 $. Une initiative que personne ne lui a demandé de faire. Il a parti ça par lui-même. Écoute, en cours de chemin, il a croisé Stéphane Dastou de Eidos Montréal, qui a remis une copie augmentée de Deus Ex
Human Revolution.
Human Revolution, merci. Et puis, signé par Denis Talbot, toute l'équipe de Monsieur Net, toute l'équipe des développeurs
d'Eidos. Ouais.
D'Eidos. Écoutez, même moi, là, l'avoir eu, je l'aurais encadré. Là, j'y aurais jamais touché. Puis, il a décidé de la donner en prix. Il y a eu plusieurs autres prix. En tout cas, je veux juste mon orange, c'est juste pour féliciter cette initiative-là. Puis,
félicitations.
J'espère qu'il va être game de se relancer dans un autre projet comme ça, parce que ça en prend du monde comme ça.
Ah, puis je pense qu'il va y avoir une méchante gang de la culture podcast et technologie québécoise qui va embarquer.
La communauté geek, en tout cas. C'est pas seulement du geek, là. Il y a eu des petites madames qui ont donné à Luc, qui l'ont vu à la télévision, parce qu'il a passé à Monsieur Net aussi pour annoncer ça. Fait que moi, je félicite tous ceux qui ont embarqué là-dedans, mais spécialement Luc, d'avoir parti cette initiative-là. C'est mon orange. Luc, t'es mon orange. Luc Desormeaux, mesdames, messieurs, on applaudit.
Clap, clap, voilà. Clap,
alors,
clap.
On va y aller avec Alexandra?
Oui. Alors moi, mon orange, elle va à l'expo, à la Bibliothèque nationale de Montréal, à l'expo manga, qui est en ce moment et jusqu'au 30 septembre. Je trouve que c'est intéressant de laisser la place au manga. Parce que dans une bibliothèque nationale, on se demande si ça a vraiment sa place. Puis en fait, la bibliothèque donne la place et une exposition entière, donc c'est gratuit.
OK.
C'est vraiment intéressant d'y aller, donc c'est jusqu'au 30 septembre.
Wow,
c'est
super. Ouais. Ben, on va aller se renseigner sur les mangas.
Ouais.
Ou continuer à triper sur les mangas, simplement.
Et mon citron. Donc mon citron va aux écouteurs iPod, qui ont une durée de vie d'à peu près 3 mois. J'en suis à mon troisième set tous les 3 mois, je dois en changer. Je l'utilise tous les jours, là, mais on achète de la qualité.
Qu'est-ce que tu
en
fais
achetant
avec
Apple. Quand on achète du Apple, on se dit que c'est de la qualité. Et les écouteurs, là, c'est vraiment pas le cas.
Bon. D'origine, là, sont absolument...
C'est une horreur. Moi, je suis allée vers une autre marque, là, parce que je dis 35 $ tous les 3 mois, au bout d'un moment, c'est fatigant.
Puis, juste pour pas vous faire peur, mais ce sont aussi des très bons conducteurs d'électricité statique pour vous choquer les oreilles.
En plus, oui.
Ah ouais.
C'est rendu après un certain temps, le métal va te transférer des beaux petits chocs dans l'oreille, ça va faire Est-ce que c'est Apple qui essaie de te conditionner à racheter des écouteurs? Je sais pas, mais c'est pas plaisant.
C'est des messages subliminaux.
C'est du hacking de cerveau.
Je pensais que ça arrivait juste à moi.
Non, tu vois, au moins, c'est pas juste toi qui a des ondes spéciales. Ben, merci, Alex.
Merci.
Allez, voyons, Laurent, Alexandra.
Je commence avec un citron partagé ou un double citron. C'est pour les applications GrooveShark et Evernote, qui sont toutes les deux des applications axées nuagiques, donc les informations sur les serveurs sur Internet, mais qui sont pas foutues de se synchroniser une fois sur deux. Je rajoute une playlist dans mon GrooveShark, j'arrive dans l'auto, elle est pas là. J'ai mis une partie de ma chronique sur mon ordinateur aujourd'hui sur Evernote, je fais synchroniser, c'est beau, c'est complet, j'ouvre ma tablette,
c'est pas là,
synchroniser, il n'y a rien qui apparaît. C'est pas le fun du tout. On fait des produits qui sont axés Internet, ça marche pas une fois sur deux, c'est plate. Puis en plus, Evernote a crashé 3 fois pendant que j'écrivais, puis GrooveShark aussi plante une fois de temps en temps. Donc les deux, un citron chaque.
Et Evernote est assez cher en plus.
Oui.
5 $, quelque chose comme, non?
Quelque chose de même. Je pense que t'es dû pour un invite à Google Music qui se sync en claquant des doigts.
Ouais, ben on verra les...
Pardon? Toi, il a écrit un article.
J'ai écrit un article comment aller sur Google Music.
Ah, ça va être intéressant. On va suivre ça.
C'est
une intervention de Coy, mesdames
et messieurs. Coy, mesdames et messieurs.
Bonjour, Coy.
On va finir par l'avoir.
Et puis,
c'est
mon
lui qui va animer.
Et puis, mon orange. Ben, je la donne à toi, Lynn, parce que tu as fait ton entrée à Musique Plus dans l'émission de Missionnette. Et on la suit, et c'est vraiment très bien ce que tu fais.
Merci.
C'est
beaucoup.
Une très belle animation. Donc, hey, on bonne, est très content. Oui.
Ben, donc, j'ai bien du fun, en tout cas, puis c'est une belle gang. Puis, tu sais, on l'entend souvent, là, ils sont fins pour vrai, mais c'est vrai.
Oui, ben, c'est ça.
Gang.
Ils sont vraiment fins. Ben,
oui, mais ils sont vraiment fins.
Mais ben, toi aussi, t'es fine pour vrai.
Avec une belle orange.
Ben, merci.
Bravo, Lynn. Fier de toi.
Lancez-moi des fleurs. Non, non.
Non, okay.
Alors, je vais y aller. C'est à mon tour. Je vais y aller avec mon orange. Alors, mon orange va au nouveau jeu de iPod de Bruno Georget. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est Dirty Gary.
Ah, c'est le fun, ça.
Oui, c'est très le fun. Dirty Gary, qui est à seulement 99 cents sur l'Apple Store. Et c'est vraiment drôle. Tu te trouves à être une espèce d'adolescent crotté. Oui, disons-le. Tu t'appelles Gary, d'ailleurs. Et il a fait un espèce de... C'est 5 mini-jeux à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, tu sais, pour 99 sous, tu te retrouves à avoir comme 5 mini-jeux. Tu as différentes choses super intéressantes. Mais je vais vous laisser le découvrir parce que pour vrai, mais je savais pas à quoi m'attendre. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle que ça s'appelle Dirty Gary puis que tu sois un adolescent crotté. Et en jouant avec, ben là, je fais juste découvrir que le jeu est vraiment le fun, c'est addictif. Et à date, j'ai regardé hier, puis il y a 11 commentaires des gens sur l'App Store. Et à date, c'est 5 étoiles et tout le monde, ils ne peuvent plus de ce jeu-là. Tout le monde dit que c'est addictif au bout. Fait que c'est super le fun que ça soit québécois. Les critiques sont bonnes. Fait que chapeau, Bruno.
Bruno,
c'est
là,
super.
Il est bon comme designer.
Ah, oui.
Bruno, en plus, il est illustrateur. C'est lui que, si vous écoutez Musique Plus, l'émission Sainte-Catherine, c'est lui qui fait l'habillage graphique. C'est lui qui a créé le décor de Sainte-Catherine.
Oui, c'est vraiment, il est vraiment impressionnant pour vrai.
Il est dans la bonne branche.
Oui, je pense que oui. Je pense qu'il devrait continuer. Et mon citron, c'est assez simple. Ça va à la Banque nationale du Canada. Je m'attaque à du gros stock.
Ah, les banques.
Mais ce qui arrive, c'est que c'est la seule application de banque qui n'a pas d'application sur le iPhone. Il n'y en a pas. Alors, la seule manière de pouvoir y accéder, il y en a un, mais ça se trouve à être seulement un localisateur de Banque nationale qu'on se fout
autour
complètement
de toi, hein?
Autour de nous. Puis, dans le fond, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment d'avoir une application qui soit capable de réagir si je veux juste écrire mon code. Parce que là, je rentre dans le site Internet, là, il me bloque automatiquement, il dit « c'est pas un ordinateur », re-rentre le code encore. Fait que là, je rentre mon numéro de carte, je rentre mon password. Il faut que je le fasse deux reprises avant de pouvoir accéder à mon compte, ce que je trouve complètement ridicule. Et c'est quand même la Banque nationale du Canada. Je comprends pas qu'on soit pas capable d'avoir une application fonctionnelle pour la Banque nationale du Canada. À la limite, tu sais, les banques d'Indiens doivent en avoir.
Bon. Mais est-ce que le site de la Banque nationale est fait pour le mobile au moins?
Non, même pas.
OK, ça, c'est vraiment... C'est un fail total.
C'est
là.
Un gros fail, méga fail.
Il
n'y
a pas de version portable.
Non, il n'y a pas de version portable.
Là.
J'en reviens pas. Pour vrai,
je veux dire, je m'en allais mentionner que Desjardins, leur application, c'est juste un web browser qui ouvre sur la version mobile.
Mais au moins, ça marche.
Mais ça fonctionne.
Au moins, ça marche. Puis ça marche très bien sur une tablette en passant. C'est aussi... C'est très surprenant, mais...
Ouais.
Pas de version mobile. Hey, on est rendu en 2011.
On se retrouve, la seule chose qu'il nous donne, c'est qu'il nous ouvre la page Internet. Et à ce moment-là, il faut rentrer notre code, mais il ne reconnaît même pas notre téléphone comme étant un ordinateur, un navigateur. Fait qu'il faut rentrer le code plusieurs fois. En tout cas, c'est complètement ridicule. Je suis outré. Non. Fait que c'est ça. Alors, c'était mon orange et mon citron.
Bravo!
Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce deuxième émission de ce podcast Le Geek Québécois. En attendant le mois prochain, parce que oui, il va falloir que vous attendiez au mois prochain pour la suite, vous pouvez toujours nous suivre sur la page Internet de Geek Québécois sur Facebook aussi et sur Twitter. Soyez pas gênés, on est partout, c'est bien simple. Je voudrais dire merci à Steve.
Ça fait plaisir.
Merci Laurent. Merci Bruno.
Merci.
Merci Alexandra.
Merci.
Merci Jean-François.
De rien.
Et merci beaucoup à Coy.
Merci.
Parce que oui, il a parlé lui aussi.
Oui,
merci
oui.
Tout le monde et à la prochaine.
Pour tout commentaire, question ou suggestion concernant l'émission ou pour communiquer avec l'équipe de Geek Québécois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Twitter à En commercial Geek Québécois ou sur le site internet au www.geekquebecois.com.
Ça fait un job.
Non. Nous sommes professionnels.
Oh ouais, ben là, c'est juste parce que je vais avoir des pics. Fais là, comme c'est moi là. Ouais. D'habitude, j'ai un micro ici.
Je fais,
j'ai un micro cravate là.
Ouais, c'est ça, dans ta roulotte.
C'est ça, avec Denis.
I've got more followers.
J'ai pas de roulotte. J'ai, ouais, j'ai pas de roulotte avec Denis en passant. Oh.
What's up?
Hey, un retour. Je vais faire du premier coup. Check bien ça. Et ensemble, je pense qu'on va faire tout un show. Un show. Et chier, show.
Un show?
Un petit peu de tout ça. Alors, bonne émission tout le monde. Et je crois bien qu'on va essayer de s'amuser. Oh, par la tabarnak.
Qu'est-ce qu'il y a?
Le chier, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, on dirait que je me suis planté. Pourquoi? Mais là, là, je
fais... Oh, ben, c'est après le
chat. Non, après le chat, ça a chier.
Non, j'ai fait comme...
Ça a chier au chat.
C'est le chat qui t'a dérangé.
Je t'ai dit des belles choses dans l'oreille.
Alors, bienvenue dans ce petit compte. Je pense que ça va faire la job, là. Yo, bitch.
Allô, Karine? Bah.
Ouais, on a Laurent, salut. On a Steve, salut. On a Bruno, bah.
C'est pour ça qu'il est bien intelligent, mon chat. Bon, on commence.
Go, Lynn, go.
Non, non.
Go.
Ça va être beau.
Non. Là, Laurent, c'était pas, c'était désagréable. Tu vas aller dans le garde-robe.
Le, de
face de pète. Check là, elle travaille à TV, elle fait déjà sa diva, là. Donnez-moi les choses d'avance. Je veux prendre
j'ai
un.
Ça.
C'est ça! Je suis occupé! Aïe, je suis pas préparé! Pause, Steve!
Fred!
Ah, je suis pas prêt! Aïe, hey, c'est toi qui passes le piton depuis tantôt?
Non, c'est pas.
Bah, c'est ça, moi j'ai des responsabilités!
Oh, sac!
Toi, tu fais rien, tu fais juste parler!
Je suis pas là à jaser pour faire ma vedette et attendre ma maquilleuse! Hein. Je disais donc, c'est quoi je disais? J'ai des.
Toi, quelque chose d'intelligent.
E égale MC2. Et ensuite, ok. Voilà, pour.
Fred!
Calvaire, je vais te dire.
Hein? C'est pas évident?
Attends, c'est pas évident, c'est. Hey, bye tout le monde!
Bonne semaine!
Hi.
Bonne semaine!
Bonne semaine!